Good, ça roule. Merci d'être là.
Merci à vous de l'invitation.
Ça aurait été rapide comme turnaround, c'est ça que je disais, avant qu'on rentre en onde. Là, je t'ai écrit, puis là, c'est comme « Ah, jeudi, parfait! »
Mais c'est là que ça se passe.
Ouais, exact.
Ouais. Parce qu'il y a un cessez-le-feu qui est en train de se négocier actuellement, en tout cas en coulisses. Donc là, au moment où on se parle, il n'y en a pas encore, mais peut-être que demain, il y en aura un. Donc,
c'est ah ouais? Coulisses? Qu'est-ce que tu veux dire en coulisses?
Ben, en coulisses, c'est que quand on négocie un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, ça ne se passe jamais publiquement. Israël ne va jamais dire publiquement « Je suis en train de négocier avec le Hamas. » Un groupe qui considère comme terroriste, comme les États-Unis et le Canada, entre autres. Donc, ça se passe en coulisses. Ça se passe entre le Qatar, les Nations Unies, l'Égypte aussi, qui joue un très grand rôle dans les négociations. Et là, on sait qu'il y a les États-Unis aussi qui font pression. Donc, quand je dis en coulisses, c'est qu'il y a des pourparlers entre les deux parties sur comment on va réussir à s'entendre pour arrêter les hostilités. Alors là, évidemment que le Hamas, par exemple, demande des choses sur Jérusalem. Et là, ensuite, Israël a aussi des demandes pour le Hamas. Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre? Ça peut être compliqué. Mais quand il y a toujours des négociations de cessez-le-feu comme ça, il y a aussi un regain des hostilités. Puis c'est ce qu'on a vu au cours des dernières heures. Il y avait une accalmie, là, la nuit dernière. Et là, on a vu qu'il y a une reprise des bombardements et des roquettes aussi.
Fait que ça se pourrait que le conflit, j'imagine, ne va pas être résolvé avec un cessez-le-feu, mais ça se pourrait qu'imminemment ça se calme.
Ça pourrait se calmer dans les prochaines heures, prochains jours. Par contre, même s'il y a un cessez-le-feu, on revient au point de départ.
Ouais.
Il n'y a rien qui est réglé.
Ouais.
La situation des 2 millions de Gazaouis actuellement qui vivent dans une toute petite bande de terre dans le sud d'Israël à la frontière avec l'Égypte, leur situation reste la même. La situation des Israéliens qui vivent dans le sud d'Israël, entre autres Ashkelon, Ashdod, Sderot, des petites villes frontalières, reste la même. Donc, il va quand même falloir trouver des solutions pour régler le conflit. Sinon, sous peu, dans quelques mois, quelques années, ça va reprendre encore. Parce que là, tout ce que Israël aurait réussi à faire, c'est de diminuer l'arsenal du Hamas. Mais ça se reconstruit avec les années. Ça s'est fait depuis la dernière guerre de 2014.
Tous les analystes que j'ai entendus justement sur la question, tu sais, sont très pessimistes. On dirait là, tu sais, que l'avenir de ce conflit-là, il n'y a pas une résolution là, en vue. Là, tu sais, que c'est assez sombre comme avenir. Là. C'est comme si, justement, tu disais les deux côtés ont des demandes, mais aucun n'est prêt à plier jamais, finalement. C'est ça un peu qui se passe.
Oui, les deux camps veulent les mêmes choses. C'est ça un peu le problème. C'est-à-dire que les deux veulent Jérusalem. Les Israéliens disent que Jérusalem, c'est leur capitale éternelle et indivisible. Les Palestiniens voudraient bien avoir Jérusalem-Est comme capitale, alors que cette portion-là de Jérusalem est occupée par Israël depuis la guerre de 1967. Et ça, c'est une occupation illégale selon le droit international, parce qu'en plus, Israël y installe des colons dans cette portion de la ville, donc des Israéliens qui vont vivre là en territoire occupé. Ensuite, les Israéliens veulent aussi continuer la colonisation dans le Grand Israël, eux appellent ça la Judée et Samarie, mais c'est la Cisjordanie. Donc, continue d'installer des colons. Il y en a 400 000 en Cisjordanie, 200 000 à Jérusalem-Est, alors que les Palestiniens, eux veulent un État sur ce territoire-là. Et plusieurs Palestiniens vont même aller plus loin, demandent que leur État soit installé sur la Palestine mandataire, donc sur le territoire actuel d'Israël. Donc, ce sont des positions qui sont assez irréconciliables. Ouais. Puis, comme tu l'as dit, depuis les accords d'Oslo, après la première intifada en 93, il n'y a pas grand-chose qui a avancé, finalement. Il y a une droitisation du gouvernement israélien. Il y a eu trois guerres, puis peut-être une quatrième. Je ne sais pas quand on va dire que maintenant, c'est une guerre entre Israël et Gaza. Donc, il y a eu trois guerres, plusieurs escalades. Donc, c'est vrai que l'espoir n'est plus là, autant pour les Israéliens que pour les Palestiniens.
Pour comprendre la nature du conflit puis pourquoi est-ce qu'on est dans cette impasse-là, je pense que, autant pour moi que pour les auditeurs, je pense qu'on devrait reculer un petit peu
tout
pour voir comment est-ce que ces forces-là se sont placées en action pour qu'on en arrive où est-ce qu'on est là. Quel a été le point de départ, mettons, de cette histoire-là? Là? Après ça, on pourra rentrer plus dans certains détails. Puis,
pour mieux comprendre.
Ouais, mais juste comme je pense que c'est important de juste reculer puis d'essayer de bien saisir ça.
Puis en plus, tu sais, là, justement, on a le luxe d'avoir le temps parce que justement, souvent, on dirait que quand on entend dans les médias, tu sais, par exemple, là, tout le monde en parle, quand c'était Agnès Grudeau qui était là, elle dit ben, on n'a pas le temps de retourner 70 ans en arrière pour faire toutes les chronologies, mais là, on aurait le temps. Fait que, tu sais, ça serait le fun d'essayer de comprendre parce que. J'ai l'impression que la perception populaire de la personne qui suit pas de proche, qui n'a pas vraiment l'intérêt à faire
la recherche,
a l'impression que tu sais, c'est une région que ça a tout le temps été comme ça, puis nanana, tu sais. Tandis que, ben, c'est ça, ça serait intéressant de savoir vraiment exactement le conflit, c'est quoi, ouais. pourquoi. T'sais.
On manque de temps dans les médias ouais. en général pour ouais. faire ça. Donc, c'est vrai que ce podcast-là, c'est vraiment l'endroit idéal pour pouvoir, en tout cas, essayer d'expliquer
déplier
ce qui se passe.
Déplier un petit peu ce.
Oui, parce qu'il y a plusieurs couches, en ouais, fait. Et il y a de nombreux événements qui ont mené à cette nouvelle escalade-là de violence. On remonte, si on veut, il y a un mois, au début du Ramadan, mi-avril. Mm-hmm. En trame de fond, ce qui se passe, dans le quartier de Sharjara, c'est un quartier palestinien de Jérusalem-Est, qui est situé à un jet de pierre, puis c'est pas un mauvais jeu de mots, de la porte de Damas. Donc ça, c'est l'entrée principale pour les Palestiniens musulmans dans la vieille ville de Jérusalem. C'est un quartier où vivent des Palestiniens et où plusieurs familles palestiniennes sont menacées d'éviction au profit des colons israéliens. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a des Israéliens qui veulent revenir vivre dans ce quartier-là en disant « Moi, en 1948, j'ai été chassé de Jérusalem-Est quand il y a eu la guerre israélo-arabe qui a suivi la création de l'État d'Israël. » Donc, selon les Israéliens, ils ont droit au retour dans leur maison. Le problème, c'est que c'est pas nécessairement les descendants des propriétaires qui veulent revenir là. C'est mm-hmm. des organisations juives financées par différents groupes dans le monde qui achètent des maisons pour réinstaller des Israéliens juifs là où ils étaient avant 48. L'autre problème, vous diront les Palestiniens, c'est pas mon opinion, mais bien celle des Palestiniens, c'est que c'est pas vrai le droit au retour pour les Palestiniens qui, eux, ont été chassés lors de la création de l'État d'Israël. Quand Israël a été créé, s'en est suivi une guerre qu'on appelle la guerre israélo-arabe en 1948-49. Il y a 750 000 Palestiniens qui ont été forcés à l'exil. Ces Palestiniens-là n'ont pas droit au retour en Israël parce que ça menacerait l'existence même d'un État juif. Mm-hmm. Alors, c'est ce qui se passe à Sharjara et les Israéliens vous diront que c'est simplement un différent immobilier, que ce sont des familles palestiniennes qui refusent de payer leur loyer dans des bâtiments qui appartiennent à des organisations juives. C'est pas seulement un différent immobilier. On sait très bien que ça fait partie d'une volonté affichée de l'État d'Israël de poursuivre la colonisation, c'est-à-dire de mettre ou de faire vivre ou d'installer des Israéliens, par exemple à Jérusalem-Est qui est occupée ou même en Cisjordanie. Ils s'en cachent pas, là. C'est pas une question d'opinion personnelle que je vous partage, c'est ça. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, l'a dit à plusieurs reprises qu'il allait poursuivre la colonisation, entre autres en Jordanie. Donc, c'est ce qui se passe à Sharjara. Et il y a eu pas mal de mobilisations. Il y a eu des Palestiniens, évidemment, mais il y a aussi eu des Israéliens de gauche qui sont venus soutenir les Palestiniens. Donc, depuis plusieurs semaines, ça se tramait. Puis, il y avait une décision de la Cour suprême, une audience qui devait se tenir. Et donc, là, la pression montait. Et donc, il y a eu des manifestations qui ont été durement réprimées par la police israélienne.
T'as dit juste... Peut-être que pour une mise en contexte, ça va être intéressant. Tu as dit qu'il y a des Israéliens de gauche qui sont allés appuyer les Palestiniens dans le début de ce conflit immobilier, entre guillemets-là. Quelle est la place des Israéliens de gauche dans la politique israélienne en ce moment?
Oui, ça, c'est une grande question. C'est super intéressant. Le camp de la gauche ou le camp de la paix est en délitement total depuis de nombreuses années, entre autres depuis la mort, l'assassinat de Yitzhak Rabin, qui était le premier ministre israélien en 1995. Les Israéliens de gauche sont rares, sont très, très rares. Ça prend beaucoup de courage pour aller à l'encontre, mm-hmm. si on veut, de la majorité dans son pays.
Mais la jeunesse israélienne, es-tu majoritairement en accord avec les actions de l'État?
Je vous dirais que si tu me demandes la majorité, je dirais que oui.
Ah ouais, OK.
Oui, tout à fait. En Israël, le service militaire est obligatoire, ouais. autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, toi, par exemple, si tu es israélien, tu vas faire 2 ans et 8 mois de service militaire obligatoire. Et si tu es une femme, c'est 2 ans.
Si tu le fais pas, c'est la prison.
C'est la prison, ouais. exactement. Et il y a une minorité, d'ailleurs, qui refuse de le faire. On les appelle les refuseniks ou les objecteurs ou les objectrices de conscience. C'est beaucoup des femmes. Et donc, ça, c'est extrêmement difficile parce que tu te fais traiter de traître par tes voisins, par ta famille, par tes amis. Parfois, tu as du mal à trouver un emploi après parce que ta position dans l'armée israélienne, c'est important pour ton CV. Mm-hmm. Si tu as réussi à accomplir des choses pendant ton service militaire, ben, ça te permet de décrocher parfois des bons emplois. Et donc, pour revenir à la question sur Sheikh Jarrah, il y a des Israéliens de gauche qui sont là, mais c'est, ça reflète une minorité, si on veut, ouais, en Israël. Mm-hmm. Mais il y en a. Il y en a, et il y a entre autres des ONG de gauche en Israël qui sont très, très fortes. Je pense, par exemple, à B'Tselem, à Yesh Din, qui travaillent sur ces questions-là de colonisation. Et tu parlais d'un différent immobilier, mais c'est vraiment un enjeu de colonisation à Jérusalem-Est.
Ouais, ouais. Donc, eux, je reprenais
le narratif
La formulation simple.
Ouais. Ouais. Et donc, ils sont là, ils se mobilisent, et tous ces gens-là vont être réprimés, les manifestations vont être réprimées par la police israélienne. Parallèlement à ça, il y a ça qui se passe en trame de fond, là, à 15 minutes à pied, si on veut, de la porte de Damas. Ouais. Puis là, on est pendant le Ramadan. Ouais. Et il y a une tradition pendant le Ramadan. Les jeunes, les femmes, les enfants vont s'asseoir dans les marches de la porte de Damas. C'est comme un agora, si on veut. Et après l'iftar, qui est le repas pour briser le jeûne, les jeunes se rassemblent là. Ils prennent des boissons énergisantes, ils fument des cigarettes, ils se parlent. Je l'ai vécu plusieurs fois.
Gros fan de Red Bull là-bas. Là.
Vraiment? Oui, oui, non, vraiment.
Ça donne des ailes.
oui, parce qu'ils prennent pas d'alcool.
Ah ouais.
Okay, tu sais, donc moi j'ai souvent vu des. Il y a beaucoup de vendeurs qui se promènent en disant Excel Barrette, ça veut dire Excel, là, la boisson énergisante bleue, froide. Donc ils vendent. Puis ça, c'est des trucs qu'on entend, puis ça reste en tête après quand on revient ici. C'est des formulations qui restent en tête. Et donc, ils se réunissent là à chaque année. Donc, et là, cette année, la police israélienne décide de mettre des barrières et d'empêcher les rassemblements.
C'est-tu sous prétexte de COVID?
Oui.
Oui, ouais, c'est ça.
En fait, oui et non.
Okay.
La COVID a le dos large. Mm-hmm. On sait qu'en Israël... la grande majorité des Israéliens sont vaccinés maintenant. Là. Il n'y a plus de problèmes de ce côté-là.
Okay.
Côté palestinien, ce n'est pas le cas, par exemple. Mm-hmm. C'est vraiment une infime minorité qui est vaccinée. Israël n'a pas trop l'air de s'en soucier, sauf pour les travailleurs palestiniens qui viennent en Israël. Là ça peut être un problème. Donc, ils n'ont pas dit que c'était pour la COVID, par contre.
Okay.
Donc, on peut penser que c'est peut-être pour ça. Mais à chaque année, il y a des tensions. Je veux dire, même COVID, pas COVID, dans les dernières années, vers 22h, 22h30, quand tu passes par la porte de Damas, puis que c'est le Ramadan, les rassemblements de gens, de Palestiniens, sont dispersés à coups de grenades assourdissantes. Mm-hmm. Pour l'avoir vu, vécu, il y a des enfants, avec des petites filles avec des belles petites robes, des mamans, des garçons avec des ballons. Peu importe ce qui se passe, c'est que là, à un moment donné, ça pète, puis les gens sont obligés de partir.
Ça, tu l'as vécu,
ah,
ça,
oui, emmener
la dispersion policière, puis tout
oui,
le kit?
Oui, à plusieurs reprises.
C'est comment ça, mettons, le pouls du moment, tu sais, quand ça arrive, c'est-tu... Est-ce que c'est la panique générale? Est-ce que c'est juste le monde se disperse?
Non, c'est la panique générale quand ce qu'on appelle des stun grenades, là, vraiment des grenades assourdissantes, quand ça pète vraiment fort.
Ouais.
Si tu le reçois près de la tête, là, c'est un gros boom. Si tu le reçois sur la tête, tu peux être blessé gravement. Non, ça surprend.
Mais oui.
Vraiment, ça surprend. Parfois, c'est lancé directement dans la foule aussi. Ça, je l'ai vu en couvrant des manifestations en 2017 où on tirait directement dans la foule aussi. Donc, il y a des gens qui sont blessés à ce moment-là. Donc, oui, les gens se dispersent un peu dans la panique. Puis, il y a évidemment toujours des Palestiniens qui vont, surtout les jeunes, qui vont rester pour résister, qui vont lancer des bouteilles, des pierres sur la police. Parfois aussi...
On n'est pas à armes égales à ce moment-là, tu sais.
Ben, c'est la police israélienne qui est très, très armée. Armée de M16, par exemple. Même si c'est pas l'armée israélienne, hein, parce qu'à Jérusalem, c'est la police des frontières. C'est pas l'armée qui est à Jérusalem.
Okay.
Et donc, mais c'est à s'y méprendre parce que les policiers sont armés comme des soldats, finalement.
Mm-hmm.
Ils ont des grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes. Les Palestiniens, ben ils ont ce qu'ils trouvent sous la main, des pierres, des bouteilles. Ça peut être parfois aussi les Palestiniens hein, qui lancent le bal en lançant une bouteille, par exemple, sur un groupe de policiers israéliens. Ça arrive, je ne suis pas en train de dire que c'est seulement l'inverse.
Ouais.
Ça arrive, ça, parce que pendant le Ramadan, il y a une espèce de petite excitation aussi. Là, ils ont un rush de sucre après avoir été à jeun toute
avec
la journée.
Avec le XL froid.
Exactement.
Ils sont bien jacked up sur le XL froid.
Donc, non, mais il y a ça aussi. Puis il faut dire que pour les Palestiniens, la police israélienne, c'est une police d'occupation. Donc, c'est pas la police à Montréal là, qui patrouille la police communautaire pour maintenir l'ordre. Pour eux, c'est vu comme l'occupant. Faut pas oublier qu'il y a ça aussi dans la tête des Palestiniens.
Donc ça, c'est tout ça mis ensemble, des petites escarmouches à gauche à droite qui a fait monter une tension qui a amené ça a débordé, là, ça a pété.
Ben, ça s'est déplacé sur l'esplanade des mosquées parce que là, c'est le Ramadan. Mm-hmm. Dernier vendredi du Ramadan, il y a parfois jusqu'à 250 000 personnes sur l'esplanade des mosquées. Mais l'esplanade des mosquées, c'est tout petit. C'est un petit rectangle de territoire dans la vieille ville de Jérusalem, dans le quartier musulman. La vieille ville fait 1 km². Ça vous donne une idée à quel point c'est petit. Mmh. Et donc, 250 000 personnes qui se réunissent sur l'esplanade, c'est énorme. Mais cette année, ils ont mis des limites sur le nombre de personnes. Et donc, le vendredi du Ramadan, il y a eu des heurts sur l'esplanade entre policiers israéliens et des Palestiniens, des fidèles qui allaient prier. Là, ça a dégénéré. Donc, d'un côté, balles en caoutchouc, gaz lacrymogène. De l'autre, bouteilles en verre, pierre. Ça dégénère. La police entre dans la mosquée Al-Aqsa, qui est le troisième lieu saint pour les musulmans. Mm-hmm. Donc, c'est une mosquée très, très importante. Ils entrent à l'intérieur et ils lancent des grenades assourdissantes à l'intérieur. C'est rare que ça arrive. C'est rare, mais ça s'est déjà vu, là. Mm-hmm. Mais c'est vraiment une ligne rouge pour les Palestiniens ne pas franchir. Donc là, la tension a beaucoup monté. Puis il y a eu 3 jours de violence comme ça. Ça a fait plus de 700 morts. Pas 700 morts, pardon. 700 blessés palestiniens. Mm-hmm. Et donc, le lundi, il y avait, comme à chaque année, une marche. Les Israéliens appellent ça Yom Yerushalayim, donc le jour de Jérusalem. Eux, ils célèbrent la prise de Jérusalem pendant la guerre des 6 jours, selon le calendrier hébraïque. C'était ce lundi-là, cette date-là. Et à chaque année, il y a des groupes de juifs extrémistes qui viennent défiler dans la vieille ville de Jérusalem, comme une provocation. En tout cas, c'est perçu comme une provocation par les Palestiniens.
Pendant cette célébration-là.
Oui, exactement. Et donc, le lundi, la marche est prévue, la tension est déjà à son comble. Alors là, il y a encore des heurts sur l'esplanade. Les organisateurs décident d'annuler officiellement la marche, mais il y a quand même des groupuscules de jeunes juifs extrémistes qui se rassemblent. Et là, le Hamas qui est à Gaza d'ailleurs, hein, c'est un territoire qui est géographiquement séparé. Donc le Hamas qui dit...
C'est à combien de kilomètres à peu près?
90 kilomètres à vol d'oiseau. Le Hamas qui dit là... Si à 18 heures, la police israélienne n'a pas quitté l'esplanade des mosquées, on va réagir. Et ils ont tenu leur promesse.
Mm-hmm. Fait que là, ils ont lancé des missiles, puis ça a commencé, ça a commencé comme ça.
Ils ont lancé des roquettes vers Jérusalem, 7 roquettes. C'est extrêmement rare vers Jérusalem. C'est déjà arrivé une fois quand j'étais là, mais les sirènes n'avaient pas retenti à ce moment-là. Cette fois-ci, les sirènes ont retenti dans Jérusalem. Ça, c'était quand même inédit depuis très, très longtemps. Il n'y a pas eu de blessés, pas eu de morts non plus dans ces lancers de roquettes. Il y avait des vidéos de Palestiniens qui ont beaucoup circulé, des Palestiniens qui étaient, ça va être difficile à comprendre, mais qui étaient contents de voir que le Hamas lançait des roquettes sur Jérusalem, alors que les roquettes venaient vers eux, finalement. Mais ils ont eu le sentiment que, pour une fois, quelqu'un se levait pour eux et que c'était le Hamas à Gaza. Parce qu'il y a aussi un vide politique, on pourra en reparler plus tard, du côté palestinien. Ouais. Et donc, ça se passe. Et puis, c'est aussi une ligne rouge pour Israël. Ouais. Donc, Israël a évidemment bombardé des cibles à Gaza. Et dès le début, il y a eu 20 de morts, dont plusieurs enfants. Et donc ça, le Hamas n'avait pas le choix aussi de réagir à ça. Et donc là, évidemment, ça, c'est un engrenage. Puis,
C'est ça qui est le plus terrible, on dirait, de cette crise-là, c'est que, tu sais, c'est un conflit entre deux États, sauf que les gens, les victimes de ça, c'est les citoyens qui sont là puis qui n'ont rien demandé puis qui sont pas l'État, là, qui sont juste là puis qui sont en mauvaise place au mauvais moment. C'est là qu'ils ont grandi, c'est là qu'ils ont vécu, puis ils écopent de ça. Là, c'est extrêmement triste. Là.
C'est pas un conflit entre deux États dans la mesure où, oui, Israël, c'est un État, mais les Palestiniens, la Palestine, ce n'est pas un État.
Mais c'est le Hamas quand même qui est le leader de.
Exactement, c'est ça. Mais je tiens à le préciser parce que les Palestiniens, c'est ce qu'ils voudraient avoir un État. État indépendant, c'est leur revendication. Ouais. Mais eux, en fait, vivent dans des territoires palestiniens. On dit la Palestine parfois pour simplifier. Puis aussi parce que la Palestine, ça représente un groupe de personnes, une culture aussi, puis il y a une région. Mais c'est pas un pays. Ils vivent dans des territoires qui sont occupés actuellement par Israël. Mais t'as raison. Peu importe notre opinion politique, Ce sont des civils
qui paient le prix actuellement. Humains,
et dans cette escalade-là, actuellement, il y a beaucoup d'enfants. Le quart des enfants, le quart des victimes à Gaza sont des enfants.
C'est terrible.
Je veux dire, c'est très troublant, c'est choquant même, on peut le dire, c'est choquant. Ouais. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux étaient horribles. Les témoignages étaient horribles aussi. Mm-hmm. Une mère qui dit, par exemple, qui passe la nuit dans la chambre de ses enfants parce qu'elle dit, une mère Gazaoui qui dit, s'il y a une bombe qui tombe sur notre maison, ben je veux qu'on meure tous ensemble. Mm-hmm. Je veux pas faire le deuil de mes enfants.
Ouais.
Ouf, ça c'est prenant. C'est prenant parce que puis même côté israélien aussi, il y a eu 2 enfants sur les 12 victimes, donc des victimes de collatérales, soit de roquettes qui sont tombées à un endroit puis il y a eu des éclats d'obus. Donc c'est pas plus drôle de ce côté-là. Les Israéliens vous diront, nous nos enfants psychologiquement sont traumatisés de devoir courir, quand on entend les alarmes, de devoir courir aux abris anti-roquettes. Les Palestiniens vous répondront, oui, mais nous on n'a pas d'abris anti-roquettes, et vous répondront aussi, mais nous on n'a pas le fameux dôme de fer qui intercepte les roquettes. C'est-à-dire qu'en Israël, au-dessus d'Israël, il y a un système antimissile qui intercepte 90 % des roquettes qui proviennent de Gaza. Parce que, évidemment, les gens de Gaza n'ont pas un système pour intercepter les bombes israéliennes. Donc, peu importe, tu sais, la politique, finalement, les Israéliens puis les Palestiniens s'en foutent, là, sur le terrain. Ouais. C'est eux qui paient le prix. Mais... des gens qui se retrouvent sans maison à Gaza, un bilan humain qui est très élevé, des gens qui vont être blessés, qui auront des conséquences à long terme.
Ça nous permet de comprendre, là, tu sais, ce qu'on vient de faire, la raison pourquoi il y a un retour aux hostilités puis aux attaques, tout ça, mais ça te dérange pas, j'aimerais ça qu'on revienne encore plus en arrière, mais vraiment, là, tu sais, parce que je vais peut-être te poser des questions qui, pour toi, te semblent évidentes, mais pour moi, ça l'est pas, puis je suis sûr que pour plein de gens, ça l'est pas.
Allons-y.
Juste, mettons, l'État d'Israël, tu sais, je pense que tu mentionnais 1948, ouais. Ça, c'est la date où l'État d'Israël a été créé, finalement, pour que... Puis là, tu me corrigeras si je me trompe.
Ouais.
Là, on est tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Mm-hmm. Les Juifs viennent de vivre la pire atrocité. Mm-hmm. Puis, on crée cet État-là un peu pour leur donner un genre de sanctuaire, un genre d'État à eux. Mm-hmm. Sauf que il y a des gens qui habitaient sur ce territoire-là. Puis, j'imagine l'origine du conflit de tout, c'est ça. Il y avait des gens là, on les a déplacés pour créer un État pour les Juifs.
Ouais.
Puis comment ça s'est passé, en fait? Ça, ouais.
Ben, je suis pas historienne, là, mais je vous raconte un petit peu. Ben, t'as raison. Donc, en 1948, les Nations unies adoptent une résolution pour créer un pays pour les Juifs qui sont massacrés, on ne va pas mâcher nos mots en Europe, donc après la Shoah qui a fait 6 millions de morts. Faut dire que les mouvements sionistes installaient déjà des Juifs en Palestine depuis la fin, je dirais, du 19e siècle. Donc, ça existait.
Le mouvement sioniste, ça, c'est le désir de retourner à la Terre Sainte.
Exactement, exactement. Et donc, il y a déjà des gens qui revenaient là parce que la persécution des Juifs, hein, ça se passait déjà bien avant la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Donc, tranquillement, il y avait quand même une plus grande population juive avec les années. Et en 48, effectivement, on a dit, on va créer l'État d'Israël à cet endroit-là. Et la résolution de l'ONU prévoyait un État pour les Juifs et un pour les Arabes.
Puis ils ont tracé ça sur une carte, on dit OK, Palestinien ici, Arabe ici, Juif ici.
Et donc, s'en est suivi une guerre parce qu'évidemment que les voisins, les pays arabes autour, n'ont pas accepté ça. Donc, il y a eu la guerre israélo-arabe. Et là, Israël a pu, c'est sa guerre d'indépendance finalement. Donc, en 1949, ils ont tracé des frontières de leur pays. En fait, c'est la ligne verte, ce qu'on appelle la fameuse ligne verte. Donc, c'est une ligne d'armistice de 1948-49 qui, aujourd'hui, sépare Jérusalem-Ouest de Jérusalem-Est. Okay. Donc, la ligne verte qui est encore...
C'est encore cette ligne-là.
Oui, exact. C'est une autoroute, aujourd'hui. Okay.
Mais sauf qu'Israël, la ligne existe encore, mais Israël occupe l'autre côté, finalement.
Exactement, c'est ça. Il n'y a pas de checkpoint entre les deux, mais il y a vraiment tout un monde qui les sépare. Là. On pourra en reparler plus tard de comment ça se passe à Jérusalem concrètement. Ouais. Mais on voit très bien la différence entre Jérusalem Est et Ouest. Et donc, voilà, il y a eu une guerre et finalement, Israël a son pays, fonde son pays en 1948, donc ça fait plus de 70 ans. Après, il y a plusieurs guerres là, dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, mais il y en a une qui a encore des conséquences aujourd'hui, puis c'est la guerre des six jours en 1967. Et donc, c'est une guerre surprise. Les voisins d'Israël, entre autres l'Égypte, la Syrie, attaquent Israël. Et Israël, en six jours, réussit, je pense, à tripler, si je ne me trompe pas, son territoire. Et donc, et c'est là où ils prennent le Sinaï, Gaza. Le Sinaï va finalement être donné plus tard à l'Égypte, là, dans le cadre d'un traité de paix. Mais le Sinaï, Gaza, Jérusalem-Est, la Cisjordanie. Et là, ça jette un petit peu les bases, si on veut, du conflit aujourd'hui. Ça a encore des conséquences aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, parce que les Palestiniens sont occupés depuis cette date-là.
Puis avant cette attaque-là, il y avait une relative paix dans cette région-là.
De 49 à...
Non, il y a eu d'autres. Il y a eu, par exemple, la guerre de 56. Il y a eu d'autres confrontations.
Il y a toujours eu toujours une tension. Conflits.
Toujours une tension, oui, tout à fait.
Puis est-ce que c'était sur des bases politiques, territoriales, religieuses? C'était quoi l'essence de ces conflits-là?
Oui, ça se mêle un peu tout. Hein, ouais. Ce conflit-là mêle un peu l'aspect religieux et territorial. Je pense qu'il y a des gens qui font l'erreur de dire que c'est la religion qui fait que c'est les Juifs contre les musulmans, par exemple. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est une mauvaise lecture du conflit. Je pense que c'est territorial. Mais évidemment que la religion vient jouer un rôle parce que l'importance de Jérusalem, c'est parce que les trois lieux saints pour les trois religions monothéistes.
C'est ça.
Donc, évidemment que la religion vient jouer un rôle, mais aujourd'hui, le conflit, il est territorial, il n'est pas religieux. Il y a plusieurs Israéliens juifs qui vous le diraient. Moi, je n'ai pas de problème à coexister avec un musulman ou avec un chrétien. Parce que les Palestiniens sont majoritairement musulmans, mais il y a quand même une partie de la population qui est chrétienne, là. Donc, quand on parle des Arabes, donc c'est pas juste les musulmans, c'est les chrétiens et les musulmans. Et donc c'est un conflit qui est principalement territorial, mais auquel territorial, s'ajoute la couche religieuse.
C'est ça, territorial, considérant que le territoire est lié en proximité avec la religion.
Exactement. Ouais. Ouais, ça s'entrecoupe tout ça, là.
Est-ce que... tu sais, l'importance de Jérusalem en tant que landmark religieux, là, je veux dire, c'est pas nouveau, là, les croisades, c'était ça. Là, est-ce que ça l'a, cette espèce de combat-là constant pour le territoire, ou est-ce que là, c'était les chrétiens qui allaient rechercher Jérusalem après ça, tu sais, qu'il y avait tout ce conflit-là autour de Jérusalem, est-ce que ça l'a poursuivi dans le temps jusqu'à une espèce de transformation jusqu'à ce qu'on a maintenant, tu sais, l'espèce de combat pour les lieux, là, tu sais. C'est-tu quelque chose qui a toujours été là, même avant qu'Israël devienne un État?
Oui, tout à fait. Il y a toujours eu... tout le monde s'est toujours arraché, finalement,
Jérusalem.
À des époques moins, à d'autres époques davantage, donc tu l'as bien expliqué. Sauf que aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre de Jérusalem, c'est que la vieille ville de Jérusalem compte trois lieux saints. Il y a l'église du Saint-Sépulcre pour les chrétiens. Ça fait moins l'objet de conflits. Mais principalement, il y a l'esplanade des mosquées, qui est aussi appelée le mont du temple par les Juifs.
Ce qui est le même lieu, dans le fond.
Exactement.
Le même lieu qui est un lieu sacré pour les Juifs et pour les Arabes.
Oui. Sur l'esplanade des mosquées, il y a la mosquée Al-Aqsa, qui est le troisième lieu saint des musulmans après la Mecque et la Médine en Arabie Saoudite. Ouais. Et,
j'ai dit arabe, je voulais dire musulman. Je m'excuse.
Non, il n'y a pas de souci. Et puis, du côté des Juifs, il y a le mur des Lamentations, qui est un pan, une fondation, si on veut, de cette esplanade-là. Et ça, c'est le premier lieu saint des Juifs. Et donc, c'est tout petit, tout ça. Hein? Là, vous vous imaginez une esplanade, c'est immense. Non, on fait le tour rapidement à pied. Là. Mm-hmm. Moi, je vivais dans un appartement qui était situé à 50 mètres à vol d'oiseau du Dôme du Rocher. Ça, c'est pas la mosquée Al-Aqsa, là. Mais le Dôme du Rocher, là, le dôme doré là, qu'on voit sur plusieurs cartes postales. Mm-hmm. Bon, c'est juste à côté de la mosquée Al-Aqsa. Donc, sur mon toit, pour vous expliquer à quel point c'est petit, on voit à la fois le mur des Lamentations et la mosquée Al-Aqsa. Donc, c'est tout petit. Il y a parfois des Palestiniens, c'est déjà arrivé, qui ont lancé des pierres sur les gens qui priaient au mur des Lamentations.
Un bon bras, quand même.
Oui, c'est ça.
Ça prend un bon
lancer. Ça prend un bras, oui, c'est ça. Mais bon, c'est... Donc, Jérusalem, il y a ça.
Ouais.
Ensuite, Jérusalem, c'est aussi la capitale revendiquée des Palestiniens, en tout cas Jérusalem-Est. Les Palestiniens qui veulent avoir un pays, une Palestine indépendante, disent « Nous, on veut notre capitale dans Jérusalem-Est. » Les Israéliens, eux, depuis qu'ils occupent Jérusalem-Est, ils avaient déjà Jérusalem-Ouest là, depuis la création de leur pays en 48. Puis en 67, ils ont pris l'Est. En 80, ils l'ont annexé. Ça veut dire qu'ils ont mis la police au lieu de l'armée. Donc, c'est des lois civiles depuis 80 qui gouvernent cette partie-là de Jérusalem. Et ils ont réitéré que Jérusalem, c'était leur capitale éternelle et indivisible. C'est pas reconnu par la communauté internationale. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a toutes les ambassades des pays dans le monde qui sont à Tel Aviv, sauf récemment, en 2018, Donald Trump, alors président américain, qui a déplacé son ambassade à Jérusalem. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais ouais. Ça a soulevé tout un tollé. Plusieurs manifestations, entre autres à Gaza, d'ailleurs. On pourra en reparler, ça fait des morts. Plusieurs personnes
qui ont été
handicapées.
Parce que ça, c'est comme un symbole pour dire... Ben, on prend vraiment la partie des Israéliens là-dedans, comme de dire Jérusalem appartient aux Israéliens.
C'était pro-israélien. On sait que les États-Unis sont les alliés traditionnels, historiques d'Israël. Puis Donald Trump disait... Donald Trump voulait présenter un plan de paix puis réussir à faire la paix entre Israéliens et Palestiniens. Donc lui, il s'est dit, on va enlever Jérusalem de la table des négociations, a donné Jérusalem aux Israéliens. Mm-hmm. Donc, les Palestiniens ont dit « Ben, ça marche pas comme ça. Depuis toujours, la communauté internationale, les Nations unies disent « Le statut de Jérusalem doit être négocié dans le cadre des négociations de paix, doit être discuté dans le cadre des négociations de paix. On peut pas donner à un parti ou à un autre. » Et donc, les Israéliens disent que c'est leur capitale, mais c'est pas la position du Canada et de la grande majorité des pays dans le monde. Donc, Jérusalem est importante pour toutes ces raisons-là.
J'ai l'impression que la communauté internationale regarde le conflit, puis personne n'est d'accord avec, mettons, les décisions de l'État d'Israël, mais personne ne fait rien, j'ai l'impression. Ben, tu sais, puis... Inversement aussi, je veux dire, le Hamas a probablement son côté de tort, là, mais j'ai l'impression qu'on regarde le conflit, mais que personne ne fait rien, en fait. Puis ça me dépasse, on dirait. On fait juste assister à comme ces deux peuples-là qui s'attaquent puis qui s'entretuent. Mais qu'est-ce qui freine, en fait, la communauté internationale d'agir?
Ben, c'est une bonne question. Israël est très puissant au plan diplomatique, entre autres. Donc, ce qu'on a vu dans les derniers jours, mais aussi, c'est comme ça à chaque escalade, la diplomatie internationale, c'est toujours des tweets en anglais qui disent « We are deeply concerned ». Puis nous, c'est presque devenu une blague. On sait à chaque fois qu'ils vont dire la même chose. Nous sommes très préoccupés par l'escalade des violences. Nous condamnons les violences dans les deux camps. Rarement, les pays vont condamner l'utilisation excessive de la force, par exemple, par Israël à Gaza. Mm-hmm. Il y a des pays de l'Union européenne qui l'ont fait cette fois-ci, mais le Canada ne l'a pas fait.
Souvent, parce que ça, c'est quelque chose qui était... qui revient souvent, l'espèce
d'asymétrie.
D'asymétrie entre les forces présentes.
Mm-hmm, tout à fait.
Ouais.
Et donc, la majorité des pays, ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils reconnaissent le droit d'Israël de se défendre contre les roquettes du Hamas.
Mais est-ce qu'ils reconnaissent le droit d'occuper des terres qui n'étaient pas... qui n'étaient pas destinés à eux au départ.
Non.
Est-ce que c'est ça?
Non. La communauté internationale ne reconnaît pas l'occupation israélienne. C'est d'ailleurs pourquoi c'est encore une occupation.
Mm-hmm.
Israël, c'est toujours une question de point de vue. Hein. Israël, pour Israël, ce n'est pas une occupation. Israël n'aime pas qu'on dise que ce sont des territoires occupés, n'aime pas qu'on utilise les mots colons pour parler des Israéliens qui vivent, par exemple, en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est. Le droit international le dit.
Mm-hmm.
Donc, comme journaliste, parfois c'est un peu compliqué parce que quel vocabulaire, quel mot tu utilises. Pour les Israéliens, le droit international, ça vaut rien ou presque rien. En tout cas, quand ça ne fait pas leur affaire, ils le rejettent unilatéralement. Pour les Israéliens, le droit international ne va jamais assez loin. Donc nous, comme journalistes, souvent, c'est notre ligne, si on veut, pour faire nos reportages, pour choisir le vocabulaire. Donc, non, l'occupation n'est pas reconnue par la communauté internationale. Israël dit toujours « on n'occupe pas les territoires, c'est chez nous ». Là, sur cet argument-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des ONG, entre autres israélienne de gauche, comme B'Tselem, qui va dire, d'accord, si vous n'occupez pas les territoires palestiniens, qu'est-ce que c'est alors? Mm-hmm. Est-ce que c'est un apartheid? Mm-hmm. Si c'est chez vous, c'est votre pays, mais que vous ne donnez pas les mêmes droits à une catégorie de citoyens, est-ce que c'est de la ségrégation?
Ouais.
Et ça, évidemment qu'Israël rejette ces termes-là. Hein? Et il y a Human Rights.
Sauf que là, il y a comme plus de... une fois que tu rejettes tous les termes, c'est bizarre, c'est difficile de se positionner.
Oui, et donc Human Rights Watch a publié un rapport récemment qui disait qu'Israël est un État qui faisait de l'apartheid, entre autres, dans les territoires occupés. Mm. Et ça a été vraiment, vraiment dénoncé par Israël. Ça dépend vraiment des points de vue. Là, moi, je vous partage des arguments que j'entends dans les deux camps. Ce ne sont pas du tout mes arguments. Mais c'est ce qu'on entend là, sur le terrain là, de la part des différents acteurs.
Mais y a-t-il des sanctions, mettons, économiquement, tu sais, ou des actions qui sont faites pour essayer de reculer? Ou bien, justement, les ententes sont tellement fortes puis sont tellement bénéfiques aux alliés d'Israël qu'il n'y a jamais personne qui tape sur les doigts,
très
finalement?
Très peu. Très, très peu. Il y a un mouvement qui s'appelle BDS, donc Boycott des investissements et sanctions, qui réussit parfois à faire quelques coups d'éclat. Mais dans les faits, le boycott économique, par exemple, d'Israël, non, réussit pas à avoir des effets. Israël est peut-être trop fort dans sa diplomatie. Ça reste un allié des États-Unis, mm-hmm. hein, les États-Unis qui financent à coups de milliards, d'ailleurs, ouais. L'armée israélienne, Israël en général.
On pourrait quasiment dire qu'ils financent indirectement le conflit actuel.
Peut-être, ouais. Si vous le dites.
Je pourrais dire ça.
Prend la responsabilité d'avoir
Je prends la responsabilité de dire ça.
C'est ça. Mais.
Joe Biden m'appellera.
Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à faire ça, financer l'armée israélienne?
Ben, c'est un allié, c'est des choses qui se font entre différents pays. C'est de verser des milliards de dollars pour aider Israël à se défendre, pour aider Israël à se positionner, parce qu'il n'y a pas que les Palestiniens. Israël bombarde aussi parfois au Liban, bombarde parfois aussi en Syrie. Ce sont tous des pays voisins, mm-hmm. donc c'est une question de géopolitique là, rendue là.
Parce que tu sais, il y a une contradiction. Tu sais, je pense que c'était hier, Biden disait tu sais, qu'il y a un appel à justement la résolution du conflit, puis mm-hmm. ça, mais on dirait que. En coulisses, ça c'est pas ça du tout. Là, ouais.
Ce que dit Biden hier, mercredi, c'était il appelait à la désescalade en vue d'un cessez-le-feu. Ça, c'était au 10e jour de l'escalade actuelle. Mm-hmm. Donc, ce que ça veut dire, c'est... Il a dit à Bibi, finalement, Bibi, c'est le surnom de Benjamin Netanyahu, là. Non, mais c'est très... c'est un peu comme Joe Biden, c'est Joseph. Bon, mais on dit la même chose en Israël,
okay,
c'est
okay,
Bibi.
OK, c'est pas... Okay,
okay. Non, c'est pas moi qui...
OK, je pensais... C'est là, genre, d'un journaliste, là, pour pas dire son nom complet tout le temps, on l'appelle Bibi.
Non, c'est okay. Vraiment, même les gens en Israël l'appellent Bibi.
Il l'appelle Bibi, c'est comme
c'est
Joe
connu,
pour Joseph.
C'est correct, ah, ouais. Okay, même bon. Trump appelait Benjamin Netanyahu Bibi. Donc, comme journaliste, informellement, on le dit, là, je le dis pas d'habitude à l'antenne, mais. Ouais. Donc, je sais pas où je voulais en venir avec Bibi, là. Ah oui, donc, c'est comme si Joe Biden disait à Bibi écoute, je te laisse encore un petit peu de temps pour finir le travail à Gaza. Mais là, bientôt, ça me fait mal paraître. Il faudrait quand même que tu arrêtes les bombardements. Mm-hmm. Et ça, il a dit ça au 10e jour seulement de l'escalade, après avoir empêché le Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter une
ouais,
motion.
Oui, parce que les États-Unis
unanime.
Ont été les seuls à dire non à cette motion-là.
Oui, ils ont fait bande à part. Et donc, c'est comme si Joe Biden avait été très silencieux dans les derniers jours pour permettre à Israël de faire ce qu'il avait à faire dans la bande de Gaza. Il y a une expression aussi qui dit tondre le gazon, c'est-à-dire que Israël, une fois de temps en temps, après quelques années, tond le gazon à Gaza, puis il va être bon encore pour quelques années, c'est-à-dire diminue les capacités militaires de la branche armée du Hamas. On va, après, on garde le statu quo, on laisse ça comme ça. Dans quelques années, on recommence.
Pour éviter qu'il y ait, à un moment donné, une force trop grande mm-hmm. qui devienne menaçante pour ouais. Israël.
Mais déjà, le Hamas avait réussi à renflouer son arsenal depuis la dernière guerre de 2014. C'est impressionnant. On l'a vu dans le nombre de roquettes qui ont été tirées sur Israël là, en seulement quelques jours. C'est plus que le nombre de roquettes au total dans la guerre de 2014 qui a duré 50 jours.
Puis qu'est-ce qui finance le Hamas?
C'est l'Iran, principalement. Okay. C'est l'Iran qui apporte aussi son savoir-faire pour la fabrication d'armes. C'est fabriqué principalement à Gaza. Il y avait avant des armes qui étaient transitées par des tunnels à la frontière avec l'Égypte. Maintenant, les tunnels, depuis l'arrivée au pouvoir de Fatah al-Sissi en Égypte, qui n'est pas issu là, des frères musulmans, alors que le Hamas, c'était une branche des frères musulmans. Donc, Fatah al-Sissi, qui est moins ami, si on veut, avec le Hamas, a choisi d'inonder les tunnels du côté de sa frontière. Donc, le Hamas a beaucoup moins de tunnels maintenant. Donc, l'Iran, les gardiens de la Révolution, ont des ingénieurs qui transmettent leur savoir-faire à des Gazaouis qui, eux, fabriquent sur place là, des roquettes et d'autres types d'armes.
C'est quoi, mettons, le scénario où est-ce qu'il y aurait une résolution du conflit? Est-ce que ça serait... reconnaître un État palestinien, tu sais, indépendant, tout ça, avec tous les pouvoirs que ça apporte, avec justement un territoire qui fait du sens, tout ça, puis que ça soit respecté ou du côté israélien. Est-ce que ça soit que c'est qu'il y a un État où palestiniens et israéliens cohabitent? Ça, c'est moins probable, j'imagine. Ouais. Mais la première option, ouais. Est-ce probable ou est complètement improbable?
Plus de 25 ans après l'échec des accords d'Oslo, la solution qui était prônée, c'était la solution à deux États.
Mm-hmm. Eh oui.
Donc, un État juif à côté d'un État palestinien. C'est de moins en moins possible, principalement à cause de la colonisation. Donc, à cause du nombre d'Israéliens qui vivent en ce moment à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. C'est plus de 600 000, là, même c'est près de 650 000 aujourd'hui. Comment construire un État palestinien sur un territoire qui est morcelé? Pour bien comprendre le conflit israélo-palestinien, il faut regarder les cartes. Mm-hmm. Et quand on regarde une carte, dans les accords d'Oslo, on a déterminé trois types de zones. Et ça, c'est important, je pense, à comprendre en Cisjordanie, parce qu'il y a quand même une majorité de Palestiniens qui vivent là. Il y a les zones A, B, C. Donc, d'abord, toutes les grandes villes palestiniennes, Ramallah, Naplouse, Jenin, par exemple, ces zones A. Donc là, vous pouvez vous imaginer une carte avec des petits points. Ça, c'est comme des îles, si on veut, dans une mer là, qui serait la Cisjordanie. Ça, ces zones A, ça veut dire que c'est sous contrôle civil et militaire de l'autorité palestinienne. Donc, l'autorité palestinienne qui a été créée pendant les accords d'Oslo, d'ailleurs. Les accords d'Oslo qui visaient un jour à créer un État pour les Palestiniens, un accord de paix, tout ça, on a créé l'autorité palestinienne. En vue de ça, finalement, il ne s'est rien passé. Mais bon, les trois zones sont encore là aujourd'hui. Il y a la zone B, donc tout autour de ces petits points-là qui sont zone A, il y a la zone B. Ça, c'est des pouvoirs partagés. Civil, pouvoir civil pour l'autorité palestinienne, mais militaire pour l'armée israélienne. Et tout le reste de la Cisjordanie, là, la mer, finalement, autour de ces îlots-là, ces zones C, ça représente 60 % de la Cisjordanie. C'est là où se trouvent les colonies. Il y a des villages palestiniens aussi. C'est contrôlé à 100 % par l'armée israélienne. Cela dit, dans les zones A, l'armée israélienne font des raids parfois quand même. Ils ne s'empêchent pas d'entrer en zone A, même si c'est officiellement sous contrôle de l'autorité palestinienne.
Puis ça c'est ce qui s'est devenu au fil du temps ou c'était dessiné comme ça au départ?
Après la colonisation?
Non, mais là, dans le fond, tu dis ces zones-là, parce que ce que je comprends, dans le fond, c'est que c'est pas... à gauche, les Palestiniens, il y a une ligne, puis à droite, les Israéliens, c'est par quartier. Là, il faut que tu puisses avoir un petit îlot où est-ce que là, c'est un quartier palestinien.
Une ville, carrément.
Une ville, sauf que tout autour, c'est israélien. Donc, c'est pas clair comme il y a une ligne claire avec une frontière.
Bien, ces zones-là devaient être temporaires. Sauf que le problème, c'est que ça fait 25 ans puis il n'y a rien qui a bougé. Et pendant ce temps-là, la colonisation, elle, s'est accélérée. Donc, il n'y avait pas 600 000 colons. À l'époque, il y en avait peut-être, mais il y en avait beaucoup moins. Ça s'est beaucoup accéléré. Donc là, aujourd'hui, on se dit, comment on va gérer ça? Est-ce qu'on laisse les colons, par exemple, les Israéliens vivre dans un État palestinien? Je pense pas qu'ils acceptent ça. Est-ce qu'on essaie de, par exemple, prendre certaines grandes colonies, les annexer à Israël, faire des échanges de territoire? C'est un peu ce qui était prévu dans le plan de paix présenté par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Ça peut être une possibilité, mais quand on regarde les cartes, c'est compliqué. Les Palestiniens n'ont pas de territoire, ils n'ont pas de continuité dans leur territoire.
Ouais.
Et pour lier la Cisjordanie à Gaza, il faudrait construire un genre de tunnel ou pas un pont aérien, je pense pas que ce soit réaliste, mais un tunnel mm-hmm. pour lier les deux territoires qui ne sont pas liés actuellement, sont à une cinquantaine de kilomètres à peu près, mais il y a Israël entre les deux.
Ouais. Mais c'est ça, c'est comme si...
Fait que c'est comme, on dirait qu'on est dans un cul-de-sac, là.
Ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui dirait qu'ils sont dans un cul-de-sac actuellement. Même les Palestiniens eux-mêmes n'ont plus aucun espoir.
Ouais.
Oui. Le leader Mahmoud Abbas, donc le président de l'autorité palestinienne, n'a pas fait grand-chose depuis qu'il a été élu pour les Palestiniens. C'est ce que vous diront les Palestiniens. La colonisation, quand même, s'est quand même accélérée. Il continue de collaborer avec Israël pour ce qu'il appelle la coordination sécuritaire pour déjouer certaines tentatives d'attaque.
Ouais.
Donc, c'est comme si les Palestiniens étaient laissés à eux-mêmes, puis ils n'ont pas un bon
puis
leadership.
Lui, il est là un peu... c'est un peu une dictature, là. Lui qui est là, c'est-tu une élection qui a été dans les règles de l'art? Parce
bon,
que...
il n'y a pas eu d'élection depuis 15 ans.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Donc, c'est ça. D'abord, les Palestiniens l'accusent de corruption.
Ouais.
Ils s'accrochent au pouvoir. Ça fait partie d'ailleurs des causes de cette escalade-là. Il n'y a pas eu d'élection depuis 15 ans. Il devait y avoir une élection, on est quelle date? Le 20 mai, le 22 mai. Il devait y avoir une élection palestinienne le 22
ouais,
mai.
Ouais, il n'y en aura pas.
Non, mais ça a été annulé. Ça avait été annulé
okay,
déjà avant.
Okay.
Ça a été annulé par Mahmoud Abbas qui a dit « Israël ne nous laisse pas tenir nos élections à Jérusalem-Est. Donc, on annule à cause de ça. » En vérité, Mahmoud Abbas, ça faisait peut-être un petit peu son affaire parce que le Hamas est assez populaire en Cisjordanie. Est-ce qu'il aurait réussi à avoir un autre mandat? Beaucoup de personnes en doutent. Donc là, vu qu'il y a un vide politique côté palestinien, c'est aussi la raison pour laquelle le Hamas en a profité quand ils ont vu ce qui se passe à Jérusalem. Abbas était pas mal silencieux. Ils ont dit, nous, on va se présenter comme les défenseurs de Jérusalem et des Palestiniens et de la cause palestinienne. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé des roquettes sur Jérusalem.
Mm-hmm. Mm-hmm. J'ai quand même l'impression, tu parlais d'espoir tantôt, les Palestiniens n'ont plus d'espoir. Mm. Puis après ça, Israël utilise le prétexte de la légitime défense quasiment pour mm-hmm. justifier là, ses actions. Puis ça, puis on accuse, mettons, la Hamas d'être une organisation terroriste, là, carrément. Mm-hmm. Là, mais quand t'enlèves tout espoir à un peuple, qu'est-ce que tu penses qui va arriver, là, tu sais? Quand t'enlèves tout territoire, t'essaies de tu lui enlèves justement toute chose dans laquelle il peut se projeter dans l'avenir, là, tu sais? Puis c'est sûr qu'il va y avoir une radicalisation, puis qu'il va y avoir des gens qui vont prendre les armes. Là. C'est juste normal. Quand tu n'as plus aucun espoir, puis ta seule option, ta seule manière de te faire entendre, c'est ça qui va arriver. T'sais. Sauf que j'ai l'impression que les Palestiniens, puis Corilla, si je me trompe, en demandent au final pas tant que ça. Dans le sens que si on retourne dans le passé, les ancêtres de ses parents habitaient ces territoires-là. T'sais. Puis là, maintenant, ce qu'ils demanderaient, je pense, c'est juste une fraction de ce qu'il y avait au départ. Là, de juste d'avoir Jérusalem Est dans leur cas, puis d'avoir un État, puis pouvoir vivre là, en tant que nation. Là, il me semble que c'est pas un si gros compromis à faire pour au niveau israélien pour juste dire on va arrêter ça une fois pour toutes. Je comprends pas qu'on n'est pas capable d'arriver à ce compromis-là. J'ai l'impression que les demandes sont pas excessives.
Oui, les Israéliens vous diront pas ça. Ils vont trouver que les demandes des Palestiniens sont effectivement excessives. Pour les Israéliens, ils veulent un Eretz Israël, donc un grand Israël, sur ce que eux appellent la Judée et Samarie, donc la Cisjordanie.
Mm-hmm.
Ils ont des visées bien au-delà de leur frontière actuelle. Donc...
Puis si pour toi, ta capitale est ta capitale indivisible,
ouais.
Tu sais, c'est quand même
ouais, mais
ça recherché.
Je veux dire, pour l'autre aussi, dans
non,
le sens qu'à un moment
donné,
exactement... on peut pas tout avoir dans la vie.
Non, mais c'est exactement ça. C'est
ouais.
exactement ça. C'est
mais ils
exactement...
sont pas prêts à laisser Jérusalem-Est aux Palestiniens, parce que pour eux, Jérusalem-Est, où se trouve d'ailleurs le mur des Lamentations, c'est leur premier lieu saint, ils veulent pas perdre le contrôle là-dessus. Est-ce qu'on pourrait pas trouver, par exemple, une solution, je sais pas moi, la vieille ville ou même la ville de Jérusalem entière gérée par une entité autre qu'israélien-palestinien, Bon, peut-être, mais je pense pas que les Israéliens veulent laisser le contrôle à quiconque sur la ville.
Fait que dans le fond, une fois qu'on est face à face avec ce mur-là, puis cette espèce de cul-de-sac qu'on parle depuis tout à l'heure, où est-ce qu'il ne semble pas avoir de solution à l'interne, est-ce que la solution serait pas dans l'ingérence de la communauté internationale?
C'est-à-dire?
Fait que c'est-à-dire la communauté internationale qui viendrait établir, par exemple, comme tu dis, Jérusalem comme étant un État en tant que tel géré par un tierce parti qui accepte ou qui s'assure que tout ça règne dans le bonheur et la joie. Tu sais, mais parce que, mettons qu'on... Puis en même temps, là, je me dis, c'est pas la place nécessairement des autres pays d'intervenir dans ça, sauf que s'il y a un... Si, tu sais, ça en est de la paix mondiale, ça m'apparaît comme la seule solution qui a un potentiel de régler la situation, tu sais.
Ça a déjà été discuté. Après, je sais pas si ça s'est un peu évaporé avec le temps. Là, on est en train de refaire le monde ici, assis à Montréal. Ouais. Ça apparaît évident
comme
solution.
Mais ça apparaît pas évident.
Non, mais dans le sens où
c'est insane que ce soit ça la solution qui semble me venir, là, tu sais.
Je ne sais pas si c'est réaliste, dans les faits, si ce sera accepté par les deux camps.
Ben, probablement que non, là. C'est sûr que non, en fait. C'est pour ça que je dis peut-être que c'est de l'imposer, mais encore là, c'est fou de penser ça, alors que c'est pas, tu sais, ce territoire-là appartient pas à la communauté internationale, mais en même temps, tu sais, dans des mesures de guerre, les communautés internationales, des fois, interviennent, même quand ça les regarde pas tant que ça, là, tu sais.
Mais Jérusalem-Ouest est considéré de facto israélien. La majorité des pays vous diront, effectivement, Jérusalem-Ouest, ça fait partie d'Israël. Ouais. Ils le disent pas publiquement, mais bon, il y a personne qui s'obstine là-dessus, parce que ça fait partie des frontières de 48-49, parce que c'est pas vraiment revendiqué par les Palestiniens. Quoi qu'il y a des groupes palestiniens comme le Hamas qui parlent de Jérusalem comme une entité aussi, là, mais au moins Jérusalem-Est, en tout cas, c'est ce qui est revendiqué par l'autorité palestinienne, d'avoir, de pouvoir avoir sa capitale dans Jérusalem-Est. Dans le plan de paix de Trump, on prévoyait Abu Dis, qui est comme une banlieue de Jérusalem pas intéressante du tout. C'est surprenant de penser que les Américains ont pensé que les Palestiniens allaient accepter ça. Évidemment que ça a été rejeté du revers de la main.
Toi, tu as habité Jérusalem pendant combien de temps?
Quatre ans.
Pendant quatre
2016-2020, oui.
Ouais, c'est là que je m'en allais aussi. Toi, tu travaillais pour Radio-Canada Saguenay, puis Annie, tu as décidé d'aller à Jérusalem?
Non, ça a été plus compliqué que ça. Oh, mais je veux dire, j'ai travaillé à Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean entre 2005 et 2013, où j'ai tout appris du journalisme, vraiment. Je faisais de la radio, de la télé.
T'as-tu étudié à Jonquière?
Oui, j'ai fait ATM. Après, je suis partie à travailler dans ces années-là pour venir faire mon bac à Montréal. Je retournais là-bas travailler. Et ça a vraiment été une expérience incroyable. J'adore le journalisme en région. Puis je pense aussi que c'est important de valoriser le journalisme en région. On a besoin de bons journalistes pour faire des enquêtes en région. Mais à un moment donné, j'avais envie, moi, de faire de l'international. Puis j'avais pas envie d'attendre d'avoir 40, 50, 50 ans, puis qu'on me dise, alors Sabrina, c'est ton tour d'être la grande correspondante de Radio-Canada. Parfois, t'attends toute ta vie, tu fais des compromis, puis finalement, c'est jamais ton tour. Puis t'es un peu frustrée aussi à la fin de ta carrière. Donc, je me suis dit, non, moi, j'avais un emploi permanent en plus, donc, mais je suis partie, j'ai laissé tout ça. C'était pas parce que j'aimais pas ce que je faisais, c'est parce que j'avais envie de voir autre chose. J'ai souvent dû me justifier parce que les gens me disaient t'as un emploi avec un fonds de pension, t'as tout ça, mais notre génération, on est moins attachés à ces acquis-là.
Mais t'es pas allée en tant que correspondante pour Radio-Canada?
Non. Moi, je suis partie, en fait, pour faire une histoire courte, je suis partie en Afrique, où j'ai bourlingué un petit peu, j'avais déjà étudié, donc je suis partie au Togo, je suis partie dans l'Est de la République démocratique du Congo, où j'ai fait certaines expériences, entre autres avec Oxfam, où j'ai travaillé avec des communautés, vraiment, là où il n'y a pas de journalistes qui se rendent. Puis moi, mon objectif en faisant ça, c'était, je m'étais dit, bon, je voulais pas sauter de l'autre côté de la clôture parce que moi, je suis journaliste fondamentalement. Mm-hmm. Mais je m'étais dit, en faisant de la communication sociale, c'est-à-dire le lien avec les communautés, avec certains programmes, c'est un programme de santé maternelle et infantile, je trouvais mm-hmm. ça intéressant. Je vais pouvoir me rendre dans des endroits de l'Itourie, dans l'est de la RDC, où on ne peut pas se rendre autrement. Je veux dire, c'est vraiment très, très loin, il faut se rendre par avion, ça coûte cher. Mm. J'ai appris beaucoup de choses là, puis je me suis dit, non, moi, c'est ça, c'est vraiment, moi, c'est le journalisme qui m'anime. Après, je suis partie à Paris. Je trouvais qu'on faisait pas assez d'international au Québec, donc je m'étais dit, je veux m'ouvrir des portes dans les médias français. J'ai fait ma maîtrise à Sciences Po Paris en journalisme international, et pendant ce temps-là, j'ai travaillé à Radio France Internationale, département Afrique et international, et au magazine Jeune Afrique aussi. Et il y a eu les attentats de Paris en 2015. Mm-hmm. Et donc là, j'ai travaillé pour des radios au Québec où là, je couvrais les attentats de Paris et les suites, évidemment. C'est là où j'ai commencé à faire beaucoup plus de piges. Et donc, depuis 2015, moi, j'étais indépendante, j'étais pigiste. Puis à un moment donné, je me suis dit, mon chum et moi, on s'est dit, bon, c'est quoi la prochaine étape? Après ma maîtrise, qu'est-ce qu'on fait? Il m'avait suivi pas mal à Paris. Ça lui avait coûté, là. Il avait fait des compromis. Donc, c'était un peu à mon tour de le suivre. On a discuté. Mm-hmm. Puis j'ai dit, OK, si tu as le contrat au bureau de Jérusalem pour Oxfam, parce que lui, il travaille pour Oxfam. Si tu as le bureau de Jérusalem pour Oxfam, le contrat au bureau, je te suis, puis moi, je vais m'y mettre à fond pour que mes piges, ça marche. Donc, ça a été vraiment difficile au début, parce que le métier de pigiste, de journaliste mm-hmm. indépendante, c'est vraiment difficile.
Ouais.
Mais je me suis donnée à fond, puis ça a marché. Donc, moi, j'avais plusieurs clients, dont Radio-Canada, L'heure du monde, l'émission là, à 18h, où je faisais des reportages de 5-6 minutes sonorisés, ou parfois des directs, ça dépendait des sujets. Donc, j'ai toujours gardé un lien, évidemment, avec Radio-Canada. Mmh. Je suis très radio-canadienne dans l'âme, mais j'avais d'autres clients, parce que sinon, j'aurais pas pu vivre à Jérusalem, où le coût de la vie est super élevé, d'ailleurs.
Ouais.
Donc, c'est ce que j'ai fait.
C'est comment vivre à Jérusalem? Comme le day-to-day, y a-tu... tu sais, j'imagine que ça doit être à la fois vraiment beau, mais à la fois tendu. Mettons, c'est comment? Est-ce qu'il y a une tension constante? Est-ce qu'il y a... Tu sais, comment ça a l'air?
Quand je suis arrivée à Jérusalem, moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Alors, ça a été long avant que j'aime.
Ah ouais.
C'est comme si... Parfois, les premiers voyages qu'on fait dans nos vies, là, on tombe en amour avec le pays, puis tout est extraordinaire. Là, j'en avais vu d'autres, puis je suis arrivée là, puis je me suis dit, oh, c'est pas comme j'imaginais. J'étais un peu déçue. Puis après, j'ai comme appris à aimer le Jérusalem, à aimer travailler en Israël, aimer travailler dans les territoires palestiniens. Puis après, là, je suis plus capable de décrocher. Je suis vraiment attachée à cette région-là du monde. Jérusalem, ça ressemble... Comment dire? Jérusalem-Ouest, ça ressemble un peu à chez nous. Bon, évidemment que l'architecture n'est pas la même, mais si tu veux manger des sushis, pas de problème.
Ah ouais?
Tu sais, c'est pas. Les gens, je sais pas ce que les gens s'imaginent. Parfois, il y a des gens qui me disent ah ouais, on s'imagine une colline avec quelques ânes, une église, tu sais, bon, comme dans le temps de Jésus.
Ouais. C'est une ville moderne quand même.
Ah, c'est moderne, oui, c'est tout à fait. C'est moins moderne que Tel Aviv, par contre. C'est pas le même style du tout. Tel Aviv, c'est une bulle, il y a des gratte-ciels, tout ça. Jérusalem, il n'y a pas ça. Il y a une architecture spéciale dans l'Ouest, c'est des pierres un peu beige, un beige rosé, là, typique des pierres de Jérusalem. C'est très, très beau. Il y a des quartiers qui sont un petit peu moins beaux parce qu'ils sont un peu moins favorisés, les quartiers ultra-orthodoxes, entre autres. Dans l'Est, c'est complètement différent. Là, tu as un style plus palestinien. La rue principale de Jérusalem-Est, Salah Eddin, c'est des commerces. C'est pas le même style du tout, mais aussi la ville reçoit pas... Jérusalem-Est reçoit pas le même financement de la ville. Okay. Donc, c'est sous-financé quand même. Donc, ça paraît.
C'est-tu moins occidentalisé, mettons?
Oui, oui, tout à fait.
Ouais,
c'est beaucoup plus moyen-oriental, je dirais.
Ouais.
Même si les Palestiniens sont très, très ouverts, il y a plein de femmes qui ne portent pas le voile nécessairement. Tu as des Palestiniennes chrétiennes. Donc, c'est assez facile d'y vivre, honnêtement. C'est assez facile. La tension, on ne la sent pas tout le temps. Vraiment pas, même. Il y a plein de touristes dans la vieille ville de Jérusalem, là. Même trop. Parfois, je rentrais de...
Ah ouais.
Je revenais de travailler, puis c'est comme... On vivait dans la vieille ville, là, mais assez creux. Mm-hmm. Donc là, je devais marcher sur Al-Wad Street, là, qui est comme la rue principale du quartier musulman. Puis là, j'étais comme, s'il vous plaît, excuse me. Je devais essayer de passer mais des groupes de touristes, mais c'était fatigant. Mais en même temps, c'est que ça fait vivre les commerçants de la vieille ville. Donc, j'étais qui, moi, pour m'en plaindre? Je suis ni palestinienne, ni israélienne. Donc,
Est puis Ouest communiquent librement.
Oui, il n'y a pas de checkpoint entre les deux. La vieille ville est située dans Jérusalem-Est, par contre. Puis, quand je vous dis qu'il y a tout un monde qui les sépare, c'est que c'est vraiment différent. Tu le sens quand tu passes dans l'Ouest. Mais c'est super près, là. C'est-à-dire que moi, en étant dans la vieille ville, je sortais par la porte de Jaffa, j'arrivais dans l'Ouest directement. Je pouvais aller prendre une bière. On allait prendre des bières avec des amis au Ataclit, là. J'allais manger des sushis aussi dans ce qu'on appelle German Colony. Après, le même soir, je pouvais aller dans l'Est, aller sur une terrasse avec une vue sur la vieille ville. Je sais pas, moi, manger de n'importe quoi. T'sais.
L'italien.
Non, oui, ben oui, tout à fait. Donc, tu sais, c'est non, c'est assez facile d'y vivre. On sent pas les tensions, sauf que quand tu vis là assez longtemps, tu sais très bien qu'il suffit d'une étincelle pour que le visage de la ville change complètement. C'est pas long, là. Ouais. C'est vraiment comme ça. C'est un claquement de doigts, puis à un moment donné, là, tout à coup, ça change. Là, c'est plus la petite ville touristique, le fun, l'oasis de coexistence, c'est plus ça du tout, là. Puis je pense qu'il faut vivre là, puis bien connaître le contexte pour reconnaître les indices.
Quand ça arrive.
Ouais, quand ça arrive. Puis quand ça commence à monter, la tension aussi. savoir...
Quand c'est le temps de t'en aller chez vous.
Oui, exactement. Ou quand c'est le temps de t'éloigner un petit peu de la foule. Quand c'est le temps de pas te mettre au mauvais endroit par rapport à la police israélienne. Tu sais, il y a des touristes qui viennent, ils prennent des photos avec la police israélienne. C'est la dernière chose à faire. Parce que parfois, il y a des attaques sur la police israélienne. Puis quand la police... S'il y a quelqu'un, par exemple, un Palestinien qui s'avance avec un couteau vers la police israélienne, bien évidemment que la police... Bien évidemment, je devrais pas dire ça, mais la police israélienne va répliquer avec des tirs à balles réelles. Si tu te retrouves entre les deux, bonne chance.
Ouais.
Donc, et c'est très tendu dans ces moments-là aussi. Parce que ça arrive, des tentatives d'attaque au couteau, ou des tentatives, je devrais dire, présumées d'attaque au couteau. Parce que parfois, on n'est pas certain s'il y a eu vraiment une tentative d'attaque au couteau. Mais il y a quand même
eu
un Palestinien mort par balle.
Le retour. Okay,
ouais.
Ça.
C'est arrivé à plusieurs reprises dans les dernières années. Ça arrive tout. Souvent, ça ne fait pas les manchettes internationales. Tout près de chez moi où je vivais à l'une des entrées de l'esplanade des mosquées, de l'autre côté d'un petit checkpoint, justement, qui contrôle l'entrée à l'esplanade des mosquées. Donc, chaque jour, quand je sortais et je rentrais, je devais passer par ce petit checkpoint-là. Et la police a fini par me reconnaître, mais ça a été long. Donc, à chaque fois, je devais me justifier comme « oui, oui, je vis juste là, oui, je... » c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'eux, bon, ils essayaient de me parler, d'être sympathiques. Puis moi, ben, je suis dans un contexte où c'est compliqué. Est-ce que tu es sympathique avec la police israélienne qui est perçue comme l'occupant par les Palestiniens qui sont tes voisins? J'ai pas nécessairement choisi de vivre dans le quartier musulman côté palestinien. C'est qu'il y avait une opportunité d'appartement là qui était pas cher alors que le coût de la vie est vraiment élevé. Donc, je suis allée vivre là. J'aurais pu très bien choisir un appartement dans l'Ouest côté israélien. Ma seule limite, c'était pas dans les colonies, évidemment, là. Mais en même temps, ça a été un des plus bels endroits où j'ai vécu dans ma vie. Prendre l'apéro sur le toit, je veux dire, les ciels sont pastels.
Ça va être débile.
Là, d'un côté, tu vois le dôme du rocher en or, le soleil qui se reflète sur le dôme du rocher, les pigeons qui volent autour, la mosquée Al-Aqsa, t'entends l'appel à la prière, t'entends les cloches du Saint-Sépulcre, les Juifs qui prient au mur de Lamentations. Non, c'est vraiment, 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 c'est magnifique. Puis j'avais le spot. Donc, par hasard, là, tu sais, j'ai eu le spot. C'était pas luxueux, rien, là. C'était juste comme le bon endroit où vivre. Là, un appartement typiquement de la vieille ville, là, des murs de pierre qui avaient 700 ans. On s'est toujours en train de se défaire un peu, j'étais toujours en train de balayer, mais tu sais, c'était vraiment magnifique, là.
C'est hot. Puis est-ce que c'est sécuritaire, mettons? Tu sais, le soir, tu peux te promener bien relax dans la vieille ville?
Oui, tout à fait. On est revenu à 2-3 heures du matin parfois, puis sans aucune inquiétude. C'est un peu le bon côté, pardon, de l'occupation israélienne. C'est-à-dire que je suis mal à l'aise de dire ça, là, honnêtement, mais c'est que il y a des caméras partout, puis t'as la police armée partout. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de petite criminalité.
L'occupation est visible, il y a des policiers partout, armés.
Ah, visible, ben oui, tout à fait. Okay. Tout à fait, tout à fait, oui, il y en a partout.
Okay.
Qui contrôlent souvent, de façon aléatoire, les Palestiniens qui circulent. Ils voient, par exemple, un shebab, un jeune Palestinien qui a l'air un peu... qui trouve, selon eux, qu'il a l'air louche, ou encore qui pense qu'il vient de la Cisjordanie, mais qu'il n'a pas de permis pour venir à Jérusalem. Ils vont le contrôler. Ils n'ont pas besoin d'excuses, finalement, pour...
pour contrôler
non,
de façon,
pas du tout.
Entre guillemets, aléatoire. Aléatoire.
On peut dire que c'est une forme de profilage racial.
Ouais,
les Israéliens, par contre, vous diront que c'est pour des raisons de sécurité qu'ils doivent faire ça. C'est souvent l'argument qui revient en boucle, hein, la sécurité, le besoin d'Israël de se défendre face à ses ennemis. Et quand on regarde l'histoire du conflit, on peut comprendre pourquoi en 48-49 sont attaqués par leurs voisins arabes.
Ensuite, ils sortent d'un traumatisme incroyable.
Exactement.
J'imagine que ça joue dans
ça
la...
Joue. C'est dans leur narratif. C'est vraiment, ça fait partie de leur ADN. Ouais. Toujours avoir le sentiment qu'ils doivent se défendre, qu'ils sont toujours attaqués. Qu'ils sont persécutés. Puis c'est pas faux, d'une certaine façon. Après 56, 67, la guerre du Yom Kippour en 73, une attaque surprise en plein Yom Kippour, ben, quand on regarde les documentaires sur l'histoire du conflit, on comprend pourquoi les Israéliens se sentent comme ça. Puis j'en ai côtoyé plein d'Israéliens aussi qui expliquent ce traumatisme-là intergénérationnel et qui nous disent, ben nous, on est attaqués par nos voisins depuis la création de l'État d'Israël. On est attaqués par le Hamas. Oubliez pas que les Israéliens sont quand même passés à travers deux intifadas palestiniennes. Donc, entre 89 et 93, puis entre 2000-2005, il y a eu un soulèvement des Palestiniens. Il y avait des attaques très fréquente. Entre 87, c'est davantage le soulèvement des pierres. Donc, des Palestiniens qui caillassaient des voitures avec des pierres, tout ça. Au début des années 2000, la seconde intifada, elle a été très violente. C'était des attentats suicides dans des bus à Tel Aviv. Ça a marqué, ça, les Israéliens. On peut comprendre le traumatisme qu'ils ont. Donc, quand on se promène dans le sud d'Israël et qu'il y a une escalade avec le Hamas, ben eux, nécessairement, ils vont vous dire ils veulent nous tuer, ils veulent notre disparition, ils veulent notre destruction.
Mais on comprend le traumatisme, puis on comprend le point de vue des deux. Il n'y a pas une situation qui est belle, là, qui les deux, qui tout le monde souffre, là-dedans, puis tout le monde est perdant, finalement. Puis c'est quoi, c'est comment, à part là présentement, là en ce moment c'est les affrontements, mais en temps normal, c'est quoi la coexistence? J'imagine aussi qu'il y a des Palestiniens du côté ouest, j'imagine.
Ah oui.
Puis tu sais, est-ce que...
Mais moins, mais pas tant que ça quand même.
OK. Ouais. Mais tu sais, est-ce que ça vit ensemble? Est-ce que dans les bars ça se mélange? Est-ce que dans les yeux publics, est-ce que
c'est... C'est une bonne question.
Est-ce que ton collègue au bureau, il est Palestinien, puis l'autre est Israélien, puis... Mm-hmm. Ou c'est quand même séparé au sein de la société?
En Israël, il y a 20 % de la population qui est arabe-israélienne, donc palestinien. Les Arabes israéliens en Israël, là, ce sont les descendants des Palestiniens qui sont restés sur le territoire israélien après la guerre de 48-49. Il y en a 20 % Okay. Donc, il y a des villes mixtes en Israël. Je pense à Nazareth, je pense à Lod, entre autres. Puis, c'est intéressant que tu poses la question parce qu'en ce moment, oui, il y a le front avec Gaza, là, mais ce qui est très, très inquiétant, ce sont les violences intercommunautaires qui se déroulent depuis le début de l'escalade dans les villes, à l'intérieur même de ces villes mixtes-là.
Des guerres civiles en même temps, finalement.
Ben, c'est des images de guerres civiles qui nous parviennent, en tout cas jusqu'ici, où on voit des affrontements entre des Juifs et des Arabes israéliens. Les deux ont le passeport israélien, là.
Ouais.
Mais ils s'affrontent. Par exemple, on a pu voir un Arabe israélien ou un Palestinien être lynché par un groupe de Juifs extrémistes en direct à la télé.
Ouais.
On a pu voir des Juifs se faire battre en direct à la télé. Il y a eu des barrages filtrants où on demande est-ce que t'es Juif ou t'es Arabe. Ça fait peur. Quand même. Et ça, c'est ce qui inquiète le plus en ce moment, les Israéliens. Au-delà de ce qui se passe à Gaza, où chaque escalade a un peu des... Comment dire? Suit des règles, peut-être, un peu plus que ce genre d'affrontement-là. Et les affrontements intercommunautaires se sont étendus comme une traînée de poudre à une douzaine de villes mixtes en Israël. Et donc, la police... Israël a dû envoyer des renforts de la police. Donc là, c'est un peu contenu, mais il y a eu des synagogues incendiées, des gens qui ont été blessés gravement, il y a eu des morts. Donc ça, c'est vraiment un front qui inquiète encore plus. Donc, il y avait une certaine forme de coexistence, mais les Arabes israéliens ou les Palestiniens vous diront, d'Israël, les Palestiniens d'Israël, vous diront quand même qu'ils subissaient une discrimination systémique quand même en étant des citoyens de seconde classe. Il y en a d'autres Palestiniens d'Israël qui s'identifient vraiment comme Israéliens, d'autres qui s'identifient vraiment comme Palestiniens.
C'est ça, ils n'ont pas toutes... Certains vont avoir plus une allégeance du côté d'Israël puis d'autres plus du côté palestinien.
Bien, je pense qu'ils sont tous... Ils vont tous te dire qu'ils sont palestiniens, mais il y en a d'autres qui vont aussi te dire, moi, je suis... L'identité, c'est fluide, hein?
Oui.
Donc, il y en a qui vont dire, non, moi, j'aime pas quand tu m'appelles arabe-israélien, moi, je suis palestinien. OK. Il y en a d'autres que tu vas dire, ah, toi, t'es palestinien. Non, je suis arabe-israélien. Puis est-ce que je suis obligée de me mettre dans une case? Est-ce que je peux être à la fois arabe-israélien, palestinien et chrétienne, par exemple? Ou et musulmane? Ça dépend des personnes.
Mais l'arabe-israélien vote aux élections israéliennes.
Oui, il y a un passeport israélien. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que ceux de Jérusalem-Est, les Palestiniens de Jérusalem-Est, n'ont pas de passeport en majorité, pas de passeport israélien. Eux, ce qu'ils ont, c'est une carte, un permis de résidence pour vivre à Jérusalem qu'ils peuvent perdre à tout moment. Il y a des inspecteurs aussi, ils sont pas suffisamment là. Si par exemple ils ont un chalet, je sais pas moi, à Jéricho, puis qu'ils sont pas, puis qu'ils travaillent en Cisjordanie, puis qu'ils sont pas capables de prouver que leur principal lieu de vie c'est Jérusalem, ils vont être expulsés, ils vont perdre leur permis de Jérusalem. Ouais. Donc ça c'est une autre. Donc tu vois, c'est vraiment comme une autre classe de Palestiniens. C'est une autre. Ils ont un statut complètement différent. En Cisjordanie, ils ont ni de permis de Jérusalem ni de citoyenneté israélienne. Ils ont un passeport. C'est pas un passeport, mais une carte de l'autorité palestinienne. Comme c'est pas un pays, c'est pas un passeport officiel. Plusieurs ont un passeport jordanien, parce que plusieurs sont considérés comme des réfugiés de la guerre de 48-49. Donc, ils ont... Et pour les Palestiniens de Cisjordanie, si par exemple, ils veulent venir prier à Al-Aqsa, ben ça leur prend un permis spécial. Puis ça, c'est... Faut demander aux Israéliens, puis c'est eux qui ont le pouvoir là-dessus. Et bien sûr, il y a les Palestiniens de Gaza. Je vous en ai pas parlé beaucoup, mais eux vivent, c'est 2 millions de personnes là, qui vivent sur une bande de terre de 40 km par à peu près une quinzaine de kilomètres de large, coincés entre Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée. Là.
C'est l'endroit où la population est le plus dense au monde, je pense. Hein?
Et donc, eux, ils vivent sous blocus israélo-égyptien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, un blocus? Ça veut dire que les mouvements des personnes et des biens est entièrement contrôlé par Israël et par l'Égypte. Principalement par Israël, parce que la principale, c'est pas une frontière, mais la principale frontière, si on veut, c'est pas une frontière internationalement reconnue, mais c'est Israël. Donc, et pour aller vers les territoires palestiniens, c'est beaucoup plus facile de passer par Israël que de traverser le Sinaï, de prendre un avion, d'aller en Jordanie, puis de retraverser en Cisjordanie. Et donc, ils vivent sous blocus depuis 2007, donc ça fait quoi, là, 14 ans? Depuis 2007, pourquoi ils vivent sous blocus? Israël a instauré un blocus sur la bande de Gaza après que le Hamas ait gagné les élections législatives dans la bande de Gaza en 2006. Et comme les Israéliens sortaient de la seconde intifada durant laquelle le Hamas avait commis pas mal d'attaques, les Israéliens qui considèrent le Hamas comme un groupe terroriste ont imposé un blocus sur Gaza. Et donc Israël contrôle tout ce qui rentre et qui sort de la bande de Gaza. Il y a eu trois guerres. Il y a eu trois guerres plus cette nouvelle escalade meurtrière. Il y a eu 2008, 2009, 2012 et 2014 qui ont détruit des pans entiers de Gaza. Gaza qui vit une situation humanitaire. Ben, en fait, c'était déjà invivable avant l'escalade actuelle. Et là, les organisations internationales se demandent comment Gaza va se relever de ça.
J'entendais qu'ils ont même... il y avait un centre... puis avec la COVID, c'était encore pire. Là, parce qu'il y avait un centre de dépistage puis de vaccination, puis ça a été bombardé, puis c'est détruit. Là.
La COVID, c'est vraiment relégué au second plan des préoccupations des Gazaouis en ce moment. Alors que chez nous, la pandémie, c'est comme
la grande chose. Ça, c'est une urgence. Cette escalade-là a créé une urgence sanitaire sur la bande de Gaza. Là.
C'était déjà vraiment compliqué de vivre à Gaza. D'abord, ils n'ont pas 24 heures d'électricité. Puis pendant plusieurs années, ils ont eu seulement 4 à 8 heures d'électricité. Qu'est-ce que ça a comme conséquence quand tu n'as pas d'électricité? Ça veut dire que les pompes qui traitent l'eau potable peuvent pas traiter l'eau potable, donc tu n'as pas d'eau potable. Ça veut dire que tu as du mal à faire tes activités quotidiennes. Les entreprises ont du mal à faire rouler leur business aussi. Faut que tu puisses avoir de l'essence pour faire rouler des génératrices. Pour les hôpitaux, par exemple, j'ai fait pas mal de reportages là-dessus dans le passé. Par exemple, l'unité de dialyse rénale de l'hôpital Al-Shifa de Gaza, le plus grand de l'enclave, n'a pas d'électricité la majeure partie de la journée. Donc, il travaille avec des générateurs. Mais quand il manque d'essence, parce que ça aussi, l'entrée d'essence est contrôlée par Israël, qu'est-ce que tu fais? Tes patients là, qui sont en train de se faire dialyser, là, donc filtrer le sang, il faut que tu pompes manuel. C'est hyper stressant pour tous les médecins qui travaillent là, puis pour les patients. C'est des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles. 8 Gazaouis sur 10 dépendent de l'aide humanitaire. Il y a plus de 50 % des jeunes qui sont au chômage.
En réalité, c'est un siège, finalement. Là,
oui, carrément. C'est un blocus. C'est un blocus. Les gens ne peuvent ni entrer ni sortir. Là, il y a une escalade en ce moment-là. On a envie de leur dire, ben, fuyez les bombes. Fuir pour aller où? Ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir. Donc, les Gazaouis se sentent pris dans une prison à ciel ouvert. Ils sont pris là. Là, je sais que dans les dernières heures, l'Égypte a ouvert sa frontière avec le Sinaï pour laisser passer des blessés. Et il y a certains Gazaouis qui sont plus fortunés parce qu'il y a quand même des gens corrompus là, du côté des agents égyptiens là, qui laissent passer certaines personnes, mais c'est vraiment minime, hein, c'est au compte-goutte, donc on peut même pas dire que c'est un phénomène. Là. La majorité des Gazaouis qui sont très défavorisés restent à Gaza en ce moment. Et dans les bombardements, il y a eu aussi plusieurs destructions de maisons. Mm-hmm. Donc il y a plusieurs personnes qui n'ont nulle part où aller. Il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui sont en ce moment dans les écoles de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, donc ils dorment dans des écoles en espérant qu'au moins les écoles d'UNRWA ne soient pas bombardées.
C'est des conditions de vie...
C'est extrêmement difficile.
J'entendais à The Daily, ils ont fait une entrevue avec une jeune femme de comme 21 ans là, qui habite là en ce moment, puis elle expliquait son quotidien, là, surtout maintenant, là, durant l'escalade militaire. Puis elle disait, on est cloîtrés dans notre maison. Puis on check sur notre feed Twitter quand qu'on peut voir si nos amis sont encore là, voir qu'est-ce qui vient de se faire bombarder. Puis elle dit, quand que on entend les bombes commencer à tomber, là, c'est ce que tu disais tantôt, c'est une de ses amies qui avait fait le tweet qui est devenu viral, là, de dire on se rejoint toutes dans le salon. Elle est avec ses quatre frères et sœurs, ses deux parents dans une petite maison, mais on se rejoint toutes dans le salon. Puis si on est pour mourir, on va mourir ensemble. Tu sais, puis si tu peux pas sortir de là, tu peux rien faire. Ouais. Elle a dit que, genre, elle check son cellulaire, puis comme des places qui sont chères à ses yeux, là, tu sais, des librairies, des affaires de même, qui se font bombarder parce que, ah, ben là, ça vient de disparaître, puis de brûler, là, c'est fou, là, c'est rough.
Ah ouais, c'est extrêmement difficile parce que les Palestiniens ont l'impression que... Il y a un aspect aléatoire à ça. Est-ce que c'est nous qui allons être bombardés cette fois-ci? Les Israéliens vous diront, l'armée israélienne vous dira qu'ils bombardent principalement des infrastructures du Hamas. Donc, des tunnels où se cachent des leaders du Hamas, où on peut cacher des armes aussi. Donc, ils bombardent au centre de Gaza City, là, la ville de Gaza qui est à l'intérieur de la bande de Gaza. Ils bombardent ce qu'ils appellent le métro, c'est-à-dire un réseau de tunnels sous le centre-ville qui sert justement à fabriquer des armes, cacher des leaders du Hamas. Et Israël dit bombarder ça actuellement et qu'ils font tout pour éviter de tuer des civils, mais que le Hamas se sert des civils comme bouclier humain. Évidemment que les Palestiniens vont réfuter les allégations des Israéliens en disant « Vous êtes capables de faire des frappes chirurgicales quand c'est nécessaire, par exemple de détruire un seul appartement d'un immense gratte-ciel. Comment vous savez tout ce qui se passe au centimètre carré dans la bande de Gaza, parce qu'ils ont des drones de surveillance et tout. Comment vous pouvez bombarder un endroit où il y a des femmes et des enfants, par exemple? Il y a eu ce que les Palestiniens ont appelé le massacre de la rue Weda. C'est une nuit où il y a eu une quarantaine de morts, dont plusieurs femmes et plusieurs enfants en même temps. Et Israël a dit c'est parce qu'on a bombardé des tunnels, puis les infrastructures se sont effondrées avec des maisons, puis finalement, il y a eu beaucoup de gens qui ont été pris sous les décombres. Voilà. Donc, il y a toujours deux versions qui s'affrontent. Il y a un peu de vrai, je pense, dans les deux. Je ne vous dis pas que c'est égal. Je ne vous dis pas que c'est asymétrique. Au contraire, on ne peut pas compter le nombre de bombes israéliennes qui tombent sur Gaza, mais on peut compter le nombre de roquettes du Hamas.
Ouais.
Israël a un dôme de fer, des abris anti-roquettes, ce que n'ont pas les civils à Gaza. Ouais. Mais c'est probablement vrai qu'Israël bombarde là, des infrastructures du Hamas. Est-ce qu'ils peuvent éviter des morts civiles? Est-ce que c'est une raison aussi pour tuer, selon le droit international, des civils? Est-ce que parce qu'il y a des civils, on devrait justement éviter de bombarder ces infrastructures-là? Je sais pas. C'est des questions qui se posent actuellement à Gaza, puis les Palestiniens, c'est ça, se pose beaucoup.
Qu'est-ce qui fait que c'est pas un crime de guerre, mettons? T'sais, un crime humanitaire, mettons?
Un crime de guerre. Ben, c'est ce que il y a beaucoup d'ONG en ce moment qui disent que des deux côtés, on accuse l'autre camp de commettre un crime de guerre, finalement. Ouais. C'est la Cour, entre autres, la Cour pénale internationale qui pourra juger de ça. Ça fait partie des lois. Il y a des lois qui dictent un petit peu ce qu'on a le droit de faire en temps de guerre ou pas. Mm-hmm. Mais évidemment que de viser des endroits où il y a des civils ou de causer la destruction des maisons de civils, c'est pas permis, ça. Dans le droit international qui encadre un petit peu les conflits armés.
Puis notre Bibi, là, c'est quoi son taux? T'sais, on a parlé un peu de la politique du côté ouais. palestinien, mais lui, je pense qu'il est en poste depuis 2009, si je ne me trompe pas. Fait qu'il y a une autre forme aussi, il s'accroche au pouvoir. Puis qu'est-ce qui, dans le fond, est-ce qu'il a été élu démocratiquement? Ou là,
oui. Il y a un grand vide politique en ce moment côté israélien. Je vous parlais du vide politique côté palestinien. Il y en a un côté israélien. En 4 ans, il y a eu 4 élections. Dans les... non, pardon, en 2 ans, il y a eu 4 élections. Tu sais, je me mêle parce que tellement de... il y en a tellement eu qu'on perd le compte. Dans les 2 dernières années, il y a eu 4 scrutins. C'est un système proportionnel. Donc, c'est extrêmement difficile de former une coalition pour gouverner. Cette fois-ci, encore, Benjamin Netanyahou n'a pas été en mesure de former une coalition. Et donc, le mandat a été donné à Naftali Bennett, qui est un de ses adversaires. Et Naftali Bennett pensait, ou en tout cas analysait, l'idée de s'allier avec des partis arabes pour gouverner contre Bibi et pour aussi signer la fin du règne de Benjamin Netanyahou, qui est élu démocratiquement d'ailleurs. Mais là, avec ce qui se passe actuellement, avec l'escalade militaire, avec les violences aussi intercommunautaires à l'intérieur d'Israël, est-ce que c'est possible de faire ça? Non, c'est de moins en moins probable. Alors, Naftali Bennett a dit, je laisse faire, je serai pas capable de former un gouvernement, donc j'abandonne le mandat qui m'a été donné par le président israélien Reuven Rivlin. Et donc, probablement que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un autre scrutin, un cinquième scrutin en 2 ans et demi, là, dans les prochains mois. Donc, Benjamin Netanyahou, est-ce qu'il y a intérêt à cette escalade militaire-là? En tout cas, ça lui donne des munitions parce qu'il se présente comme celui qui est capable de gérer la situation. Mm-hmm. Puis ça fait en sorte que ses adversaires sont incapables de s'organiser, si on veut, pour former une coalition.
Son taux d'approbation, de popularité est quand même assez bon, finalement.
Oui, tout à fait. Le Likoud est populaire. Il y a eu quand même des grandes manifestations là, dans les derniers mois, dernières années contre Benjamin Netanyahou parce qu'il est aussi en procès pour fraude, corruption et abus de confiance. Et donc, sa cote de popularité a un peu baissé. Mais quand il y a un conflit comme ça, s'il réussit à bien gérer les choses, c'est-à-dire à donner une bonne raclée au Hamas, sans que le bilan humain côté israélien s'alourdisse trop, il pourrait sortir gagnant de cette situation-là. Après, si ça dégénère, par exemple, s'il y avait une invasion terrestre de l'armée israélienne à Gaza, qui est beaucoup plus risquée puis qu'il y avait beaucoup de morts côté israélien, peut-être que là, son étoile pâlirait.
Est-ce qu'on peut imaginer que s'il y avait des changements de leader, mettons, des deux côtés, ça pourrait être une avenue vers régler cette crise-là ou... ça va revenir au même, finalement, peu importe qui est au pouvoir.
Je pense que c'est pas une question de leader. Je pense que c'est vraiment une question de fait sur le terrain. Je pense qu'il faut trouver des solutions à la situation actuelle, aux 50 ans d'occupation, au blocus à Gaza, entre autres. Peut-être que si c'était pas le Hamas qui était au pouvoir à Gaza, peut-être que les choses seraient différentes. S'il y avait des élections, puis s'il y avait plus Mahmoud Abbas, ben ça serait peut-être le Hamas qui serait aussi en Cisjordanie. Est-ce que ce serait encore pire? Peut-être. Si c'est pas Bibi qui est au pouvoir, Benjamin Netanyahou, ça peut aussi être quelqu'un qui est encore plus à droite que lui. Ça peut être encore pire.
Ah ouais?
Ouais.
Tu disais tantôt que tu avais vécu un moment où il y avait eu des bombardements à Jérusalem. C'est quoi? Comment ça se vit, ça? Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive?
Ben,
puis tu disais qu'il n'y avait pas eu les alarmes, là? Mais les alarmes, j'imagine, ça amène une couche de plus. Là. Mais comment est-ce que tu vis ça quand t'es là?
Comme journaliste, on garde un sang-froid parce qu'on est professionnel. Parfois, dans la presse internationale, on a l'impression que tout le territoire est à feu et à sang, mais c'est pas toujours le cas. Là, donc, il faut quand même être clair. Là, moi, je me suis jamais sentie menacée en étant à Jérusalem ou même en étant à Gaza ou ailleurs en Israël, là, dans des villes israéliennes.
T'as jamais senti que ta vie était en danger dans ces situations-là?
Non. Non.
Mais est-ce que c'était juste parce que tu jouais un peu à l'autruche? Parce que techniquement, il y a quand même un aspect aléatoire au truc qui pourrait faire que
ta
vie est plus en danger que sur le plateau Mont-Royal, mettons.
Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr que probablement que mon espérance de vie diminuait quand j'étais là-bas. Là. Mais... souvent, on a l'image des journalistes qui couvrent des zones de conflit, un peu comme des têtes brûlées, qui vont prendre des risques. Bon, moi, c'est pas mon cas. Je suis hyper organisée. Je travaille de façon claire et je prendrai pas de risques inutiles. Donc, la plupart du temps, non, j'ai pas craint du tout pour ma vie. Tu sais, je suis privilégiée, j'ai un passeport canadien. S'il arrive quoi que ce soit, moi, je sors mon passeport en mode, pardon, je suis canadienne, voilà.
J'imagine que de tous les côtés,
je lève les pieds.
C'est bien perçu, un passeport canadien.
En général, oui, c'est assez bien perçu. Ouais. Moins pendant l'ère Stephen Harper, par contre. Mmh, okay. Ouais, ça, c'était plus compliqué. Ouais. Mais là, c'est assez bien perçu de façon générale.
Ouais, Justin, il paraît bien sur l'international.
Et puis... c'est ça. J'ai couvert de nombreuses escalades, justement, à Gaza, mais dans le sud d'Israël. Dans le sud d'Israël, en mai 2019, il y a eu une pluie, il y avait des pluies de roquettes, parce qu'Israël, contrairement à avant, le lance des barrages de roquettes. Le but, c'est d'en lancer le plus possible pour déjouer le dôme de fer, puis qu'il y a quelques roquettes qui puissent passer à travers les mailles du filet puis causer des dommages. Et j'étais à Ashkelon quand il y a eu, à un moment donné, des centaines de roquettes. Et... oui, c'est stressant parce que j'étais dans sur le terrain d'une maison où la veille ou durant la nuit, il y avait une roquette qui avait tué un homme. J'allais rencontrer la famille pour faire des entrevues. Bon, j'allais voir comment ça se passait. Le trou dans la cour, il est béant. C'était vraiment un gros trou. L'homme, il était sur sa terrasse, était en train de fumer une cigarette, puis il se disait probablement, comme plein d'Israéliens, bon, la roquette va pas atterrir chez nous.
Ça sera pas ici.
C'est atterri dans son jardin, et puis il y a eu des éclats d'obus, puis il est décédé, donc il est mort. À trois reprises, en l'espace de quelques minutes, j'ai dû courir moi-même aux abris dans cette maison-là où l'homme a été tué, dans l'abri anti-roquette de cette famille-là.
Il y avait un abri anti-roquette. Le gars, il a décidé de sortir de son abri pour fumer une smoke. Les cigarettes vont vous tuer.
Ça n'a jamais été confirmé par la police, cette version-là, mais non officiellement, c'est ce qui s'est vraiment passé. Ouais. Ben, à un moment donné aussi, quand il y a des alertes, des alarmes toute la nuit... J'imagine qu'il y a aussi comme on normalise la situation, puis bon, je vais pas aller à l'abri cette fois-ci parce que mais là c'est arrivé que cette fois-là, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Et c'est vrai que de courir aux abris, c'est stressant. Je peux en témoigner. J'ai vu aussi la peur dans les yeux des gens qui venaient de perdre un proche, donc la famille. Ou c'est un abri anti-roquette, là, c'est un peu comme une garde-robe, c'est tout petit. Puis souvent les gens entreposent, je sais pas moi, leurs boissons gazeuses dans ces endroits-là. C'est un peu comme un garde-manger finalement. C'est tout petit, mais c'est renforcé. Et on était tous coincés comme ça dans l'abri anti-roquette. Puis on attend, puis on entendait les booms. Donc ça veut dire qu'il y a des roquettes qui tombaient à des endroits. Et après, on a pris la route. Et quand il y a une alarme, puis on est sur la route, il faut arrêter, sortir et se mettre par terre, coucher au sol, les mains sur la tête. Donc, ça aussi, c'est arrivé. Pourquoi? Parce que s'il y a une roquette, souvent, parce qu'il y a deux choses. S'il y a une roquette qui tombe près, les éclats de but vont
dans
aller dans les airs, donc il faut être au sol. Mais aussi parce qu'il y a des missiles guidés aussi qui visent parfois des véhicules. Donc là, nous, on était très près de la clôture avec Gaza. Donc, ça aurait été possible que le véhicule dans lequel on était soit visé par un missile guidé. Donc là, dès qu'il y a une alarme, on sort de la voiture puis on se met plus loin au sol. Donc, je l'ai vécu, puis c'est vrai que j'ai pas eu peur pour ma vie durant ces moments-là, mais j'ai pu comprendre par contre l'inquiétude des Israéliens. C'est vraiment dans ces moments-là où ça aide comme journaliste à mieux comprendre le narratif des Israéliens. Après, à Gaza, c'est là peut-être où j'ai peut-être eu peur pour ma vie à un moment donné où il y avait la marche du retour. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Non.
C'est, OK, quand Trump a dit que Jérusalem était la capitale d'Israël, ça a soulevé un tollé dans les territoires palestiniens. À Gaza, ils ont choisi de manifester contre cette décision-là pour réclamer Jérusalem et réclamer leur droit au retour des réfugiés. Et donc, par milliers, les Gazaouis sont allés manifester le long de la clôture avec Israël et ils menaçaient...
Est-ce que c'est littéralement une clôture?
Oui. Il y a certains bouts, c'est des murs en béton. Puis il y a d'autres bouts, c'est vraiment juste des barbelés.
Oui.
Et donc, ils étaient là, puis ils se sont rendus jusqu'à la clôture et ils menaçaient, ils arrivaient avec des grosses pinces, puis ils menaçaient d'ouvrir pour, eux, retourner chez eux, ce que eux considèrent comme chez eux. Et donc, évidemment qu'Israël a eu peur d'avoir des infiltrations, je le mets entre guillemets, sur son territoire. Donc, ils ont déployé des snipers israéliens tout le long de la clôture, vraiment le long des 40 km de la bande de Gaza. Puis c'était des milliers de Gazaouis qui allaient manifester aussi contre le blocus. Alors, c'est une manifestation qui englobait toutes leurs revendications. Il y a eu beaucoup de morts par balle et surtout beaucoup de blessés parce que les snipers visaient les Palestiniens principalement dans les genoux. Et donc, il y a eu énormément de blessés graves, des gens qui sont handicapés aujourd'hui. Et je me trouvais dans la zone tampon de 300 mètres. Donc, ça,
entre les snipers puis la grille de métal?
Non, entre la grille de métal et la partie plus sécuritaire. Okay, dans ouais. le fond, vous avez Israël d'un côté, il y a une clôture, puis ensuite c'est Gaza. Mm-hmm. Si tu entres dans les 300 mètres de la zone tampon, là tu deviens un peu une menace là, pour Israël. Donc tu peux être la cible d'un tir. Et donc moi je faisais des entrevues, c'est en début de journée, c'est un vendredi où il y avait encore des manifestations. Et là, on s'approche et je fais une entrevue avec un vendeur de crème glacée. C'est un petit monsieur qui a une famille qui vend de la crème glacée pour trois fois rien. Et donc, moi, je suis pour la radio et je fais une entrevue, puis j'ai mon fixeur avec moi. Et là, on entend clac, 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 clac. Ça, c'est des... On s'imagine qu'un bruit d'armes, ça fait beaucoup plus de bruit que ça. Non, des petits claquements tout petits, ça voulait dire qu'il tirait, tu sais. Et là, j'ai dit à mon fixeur, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'entendais claquer des balles. Je trouvais que c'était... Bon, il y avait un journaliste qui avait été tué dans les semaines précédentes avec une veste par balle écrit presse dessus.
Oh ouais.
Et donc, les snipers israéliens qui sont pas si loin que ça, moi, je les voyais. Je veux dire, ils sont pas loin. Ils ont aussi, avec leur fusil, j'imagine, une espèce de...
Un viseur.
Un viseur, exactement. Mm. Donc, pour voir où ils visent, ils savent. C'est pas au hasard, ils visent pas au hasard. Et donc, là, j'ai eu un petit frisson. Je me suis dit, bon, je pense que je vais reculer quand même. Je voulais absolument aller sur le terrain pour voir qui se trouve dans la zone tampon. Parce que Israël disait que c'était principalement des combattants du Hamas qui allaient là. Puis c'est comme ça qu'ils justifiaient la répression très forte de ces rassemblements-là. Puis s'il n'y avait pas de journalistes dans la zone tampon pour aller voir, est-ce que c'est vraiment des militants du Hamas?
Les gars, ils vendent la crème glacée, là.
Oui, exactement. Et il y avait aussi des grands-mères palestiniennes. Il y avait des enfants habillés presque avec un habit du dimanche, mais c'est le vendredi. C'est leur jour de prière. Mmh. Il y avait des femmes. Il y avait des jeunes. Il y avait aussi des jeunes qui revenaient, puis là, tu les voyais avec le foulard palestinien, puis qui allaient lancer des pierres. Il y en avait, évidemment.
Quelque chose d'absurde dans cette phrase-là, tu sais, comme si...
Il allait lancer des pierres.
Il allait lancer des pierres, l'autre bord, c'est des snipers, tu sais.
Mm-hmm.
En tout cas, c'est...
C'est une réalité.
Ouais.
Lançait parfois des cocktails Molotov aussi. Il y a eu à certains moments, parce que ça, la marche du retour, ça a duré là, des mois. Des mois. À un moment donné, ça s'est un peu... ça a affaibli la mobilisation, puis ça s'est arrêté, mais ça a duré longtemps. Puis souvent, après le vendredi, la marche du retour, il y avait une escalade militaire, parce qu'il y avait des morts côté palestinien, ben, le Hamas lançait des roquettes, puis Israël répliquait avec des bombardements. Puis ça se terminait comme ça. Il y avait pas, ça, on n'allait jamais vers une guerre totale, mais les escalades étaient de plus en plus fortes, je dirais. Donc, il y a là où je me suis dit, ouais, ça c'était... Mais en même temps, je trouvais que c'était important d'aller voir qui était dans cette zone tampon-là. Donc, j'ai seulement reculé, puis ça allait. On a reçu une pluie de gaz lacrymogène, par contre, donc il a fallu quand même quitter rapidement, parce qu'ils viennent avec des drones au-dessus de nos têtes pour larguer des gaz lacrymogènes. Cette fois-là, j'ai pas eu peur pour ma vie, mais je me suis dit, bon... On prendra pas de risque.
Quand on voit, mettons, ces scènes-là, puis cette réalité-là de ces gens-là, puis que tu entends les balles siffler autour de... Est-ce que c'est quelque chose qui change à l'intérieur de... Est-ce qu'après, ça change une perspective sur la vie en général?
Ouais.
C'est philosophique comme question.
Oui, mais... c'est très philosophique. j'ai vu beaucoup de blessés graves. Je suis allée dans les centres d'MSF aussi, puis après, je me disais... C'est vrai que je me disais... Mes petits bobos, là. Hein? On va arrêter d'avoir. Parfois, j'avais envie de me plaindre sur certaines choses qui étaient insignifiantes. Je me dis, bon, je vais me calmer.
Mm-hmm.
Ça, c'est. Mais en même temps, je ne sais pas comment t'expliquer, mais comme journaliste, évidemment que je suis touchée par ce qui se passe, parce que je vois autant côté palestinien qu'israélien, ça, c'est sûr. Mm-hmm. Puis moi, ma méthode de travail, c'est que je me laisse imprégner par ce que je vois, par ce que je vis. Je laisse les émotions monter. Ça m'est déjà arrivé dans une entrevue quand j'étais au Kurdistan irakien où j'ai pleuré. Parce que j'étais trop touchée, parce que j'entendais un père qui avait perdu ses deux filles aux mains de l'État islamique, du groupe État islamique, qui les cherchait encore aujourd'hui, hein, qui avait été otage, fait esclave sexuel. Bref, j'ai été touchée, je me laisse imprégner par ça, mais après, quand je reviens, soit dans ma chambre d'hôtel ou chez moi, pour écrire mon reportage ou le monter, si c'est pour la radio, là, je prends la distance professionnelle nécessaire. Mais sinon, si t'as pas une certaine empathie, comment tu peux bien rapporter ce que vivent les gens sur le terrain?
Mm-hmm.
Puis moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant en journalisme, c'est d'aller à la rencontre des gens de la rue. Je veux dire, la diplomatie, l'histoire, les couches géopolitiques, la théologie. Tu sais, ce conflit-là, il peut paraître complexe, mais quand on va parler aux gens dans la rue, là, il n'y a vraiment rien de compliqué.
Ouais. Puis j'imagine que, tu sais, là, je vais extrapoler, mais quand tu vois ça, c'est plus difficile après ça d'accepter quand des gens ici disent que les mesures, c'est pour contrôler la population, là. Tu sais, les mesures sanitaires, mettons. Là.
Ça
quand
me fait sourire.
C'est ça. C'est ça genre, ah ouais, tu penses qu'un gouvernement qui veut contrôler la population, c'est ça qui nous laisse aller dans un parc puis faire ce qu'on veut, là, tu sais. Mm-hmm, j'imagine que ça remet en perspective, ça aussi.
Ben, ça me fait sourire, mais je passe mon tour.
Ouais.
Ouais,
ah,
c'est
ouais,
ça.
Je comprends.
Ouais.
Puis j'imagine aussi que, tu sais, en début de podcast, je disais, tu sais, des fois, la perception ici. On comprend pas justement la complexité de ces conflits-là, puis aussi on, de pas l'avoir vu, de pas l'avoir vécu, de pas avoir un contact avec ces réalités-là, c'est difficile d'avoir justement l'empathie nécessaire mm-hmm. pour comprendre un peu la réalité des honnêtes citoyens des deux côtés. Mm-hmm. Fait que j'imagine aussi des fois, en entendant ici la perception de certaines personnes, quand on parle de ces affaires-là, tes oreilles doivent scier aussi.
Depuis quelques jours, je te dirais que mes oreilles scient. Ouais, ah ouais, ouais. Non, j'entends des choses. Moi, je trouve pas plus acceptable les commentaires antisémites contre les Israéliens, contre les Juifs, à cause de ce qui se passe à Gaza. C'est pas plus acceptable. Mm-hmm. Et l'inverse est vrai aussi. Les commentaires, que ce soit islamophobes ou anti-palestiniens, il y a rien de ça que moi, je trouve acceptable. Mm-hmm. De toute façon, dans tous les conflits, moi, je prends le parti des civils. Là. Je veux dire, oui, peu importe la situation. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est les conditions de vie de ces gens-là. Oui. Est-ce que le droit est respecté, le droit humanitaire, le droit international? C'est souvent ma ligne. Les droits humains, les droits de la personne, est-ce que c'est respecté? J'accepte pas, non, effectivement, d'entendre des remarques comme ça. Je vais réagir. Mais j'ai aussi beaucoup entendu, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir jaser avec vous dans ce podcast, mais j'ai entendu aussi beaucoup de faussetés là, qui se sont dites sur le conflit israélo-palestinien.
Veux-tu en rectifier quelques-unes? Sans nécessairement nommer qui
l'a
prononcé.
Non, je ne vais pas régler des comptes, mais juste, je comprends que ça peut être compliqué, mais faut donner le temps nécessaire pour la compréhension de ce qui se passe, parce que sinon, on ne joue pas notre rôle comme journaliste et comme média. Je comprends que dans les médias traditionnels, c'est plus compliqué, on n'a pas beaucoup de temps, mais justement, la minute 30 que tu as pour le faire, choisis les bons mots. Mm-hmm. Ouais. C'est important.
C'est pour ça aussi, tu sais, que j'ai aimé ça, à tout le monde en parle, justement, qu'Agnès Grudeau, à la fin, quand elle a dit d'arrêter de dire les Juifs si ou les Palestiniens si, de faire des grandes généralités, c'est pas... Le peuple n'est pas la décision de son État, etc. Puis c'est pas un bloc monolithique. Il n'y a rien qui est si simple.
La société israélienne est très, très diversifiée. On ne peut pas dire les Israéliens comme si c'était un bloc monolithique, justement, ni les Palestiniens. Mm-hmm. Il y a plusieurs identités dans chacun des camps, puis c'est vraiment complexe. En même temps, parfois, il y a quand même... faut dire les choses aussi. Mm-hmm. Quand il y a un groupe de Juifs extrémistes qui lynche un Palestinien en pleine rue,
c'est ce groupe de Juifs extrémistes.
Il faut être précis dans ce qu'on dit. Il faut être précis, effectivement, dans ce qu'on dit.
Oui. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Merci à vous.
C'était vraiment une super conversation, puis je pense que ça va en éclairer plusieurs, dont moi.
Oui, vraiment. C'est, as-tu des projets qui s'en viennent? Tu travailles sur quoi présentement?
Blogs.
Oui, c'est ça. J'avoue que je suis ce qui se passe là-bas et je meurs d'envie de m'acheter un billet d'avion.
Ah ouais?
Ouais.
Ah
ouais.
Toi, tu vois ça, tu fais « Oh, allons-y! »
Ben oui, parce que je me dis, ils ont besoin des journalistes qui comprennent le contexte pour aller couvrir. J'ai des amis qui sont encore là-bas. C'est des territoires que je connais bien.
Est-ce que tu irais même, mettons qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, tu irais là quand même?
Si j'étais actuellement à Jérusalem, oui. Là, le checkpoint pour entrer est fermé, mais dès qu'il ouvrirait, c'est sûr et certain que j'irais. Là, comme indépendante, mon problème, ça, c'est une autre réalité. Le journalisme indépendant, c'est que ça coûte extrêmement cher, se rendre là-bas. Il faut payer pour un fixeur aussi sur place à Gaza. On n'a pas le choix. C'est une règle du Hamas.
Tu l'as mentionné, le fixeur, c'est quelqu'un de là-bas qui t'aide dans.
Exactement.
Dans ton
c'est souvent un journaliste local qui va mettre son nom sur le permis du Hamas puis qui est responsable de toi. Donc, si tu dis une connerie, lui peut vivre les conséquences de ça aussi. Le Hamas, c'est pas non plus un enfant de cœur. C'est pas un groupe simple. Y a pas, tu vis pas 100% librement non plus dans la bande de Gaza. On en a pas beaucoup parlé, mais c'est le cas aussi. Donc, le Hamas contrôle quand même qui entre sur son territoire. Donc, c'est ce que j'aurais envie, mais c'est un peu compliqué pour l'instant. Donc, là, je suis ce qui se passe. Moi, je travaille comme temporaire à Radio-Canada. Donc, je fais de la rédaction, de la présentation, de bulletins de nouvelles. Je participe à des balados. Bon, je fais pas mal d'affaires. J'ai des projets personnels à côté, mais pour l'instant, je vous dirais que ce que je fais, c'est que la nuit, quand je suis ce qui se passe à Gaza, que mon fils se réveille dans la chambre à côté, puis que j'essaie de l'entraîner à ce qu'il s'endorme tout seul, ben, je lui dis « OK, viens dormir dans le lit avec maman », parce que je vois ce que les mères vivent à Gaza et en Israël. Puis je trouve ça extrêmement difficile d'être témoin de leur réalité sans pouvoir faire quoi que ce soit. Je me sens très impuissante, fait que j'essaie de me rendre compte de mes privilèges.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous.
Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Ça prouve que vous êtes de réels fans de conversation et du Sans Fil Podcast, et on vous remercie vraiment beaucoup. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus de conversations, c'est sur Patreon que ça se passe.
Yes, sur Patreon, non seulement on met tous les podcasts en ligne au moment où est-ce qu'on les tourne, donc on a beaucoup de semaines d'avance sur le Patreon, mais on fait aussi des encore moins de filtres qui sont exclusifs aux membres Patreon, où est-ce qu'on parle, Dom, Nicole et moi, de la conversation qu'on vient d'avoir, où est-ce qu'on va un petit peu plus en profondeur dans certains sujets qu'on voulait aborder ou qu'on a abordé pendant le podcast. Donc, allez sur notre page Patreon, et le lien vers ça va être dans la description du podcast. Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.